Je fais une petite présentation de qu'est-ce qu'on fait. Notre dernier bouquin, on écrit des bouquins, en gros, c'est ça. J'aime pas Facebook. Ce qui n'est pas le titre du livre en italien. Okay. Dans l'aquarium de Facebook, la résistible ascension de l'anarcho-capitalisme. Vous voyez que l'éditeur français sait bien vendre ses livres, et nous, pas vraiment. Aussi en espagnol, ils savent pas vraiment vendre des livres, et c'est pour ça qu'ils ont repris les titres italiens. Voilà. Mais tout cela pour dire qu'en fait, on vient d'autres bouquins, celui-ci hein, notamment, sur Google. Ce n'est pas qu'on est toujours contre celui qui est le plus grand, donc on n'est pas contre Google, contre Facebook, on s'en fout en gros. Sauf que, comme on écrit ensemble, on cherche de parler de nos sujets avec le plus grand nombre possible. Quel est notre sujet en gros? C'est comment on fait des réseaux sociaux. Voilà. Donc on est là ce soir, nous je veux dire... Moi, avec moi, c'est Karl, avec deux autres copains et une autre copine, pour faire une association qui s'appelle Passe à Montagne, qui passe d'un côté à l'autre des montagnes en faisant des trucs à nous. Ça, c'est notre façon à nous de faire des réseaux sociaux. C'est très petit. C'est pas Facebook, c'est pas Google. Peut-être ça marche moins bien. Parce que c'est pas facile de faire des choses ensemble. Et c'est de ces constats, c'est-à-dire que c'est pas facile de faire des choses ensemble, qu'on s'attaque à Google, à Facebook, à ce qui viendra après, parce qu'il viendra après, des choses encore plus grandes peut-être, pour dire à la base deux choses. Premièrement, c'est pas facile, c'est pas gratuit. La liberté de faire des choses, de faire des trucs, voilà. C'est pas une chose automatiquement qui est donnée à nous par une technologie qui nous déborde. Si c'est comme ça, pour nous, il y a un problème. Et c'est une position, je veux dire, c'est pas démontré. On n'a pas des données pour dire c'est comme ça. On pense dès le début que c'est comme ça. Donc, c'est un peu compliqué. Il faut s'entraîner, il faut se... Je sais pas comment dire.
Remonter les
manches. Remonter les manches, ouais. Voilà. Et faire des choses. Premier constat. Deuxième constat, ça prend du temps. Ça prend du temps, ça signifie que c'est pas immédiat. C'est-à-dire que ce n'est pas, moi je veux avoir un outil qui fonctionne très bien, qui ça marche tout le temps, et pour tout le monde, et on aura la possibilité de faire tout et n'importe quoi ce qu'on veut. Google, Facebook, Twitter, je sais pas quoi, la révolution. Ah, avec Twitter, Facebook, on va faire la révolution, mais dans 2 minutes, hein. C'est comme ça. On dit, révolution demain matin, on sait trop, voilà, c'est fait. On pense qu'il faut du temps. Et là encore, c'est une question vraiment, qui n'est pas démontrée. On n'a pas de données pour dire ça. On pense que c'est comme ça, on est convaincu que c'est comme ça. Donc, tout ce qu'on écrit ensemble, on est 4 maintenant, c'est pour voir dans la pratique des choses qui se déroulent dans le monde technologique en particulier, parce qu'on vient d'un milieu hacker, d'un milieu de gens qui hands-on, qui vont mettre ses mains dans les technologies, donc on n'est pas contre les technologies, on est pour une utilisation différente des technologies, si c'est possible. On ne sait pas. On essaye. Donc j'ai peut-être ce qu'on avait pensé avant, c'est de juste lancer les 3 parties de ces livres-là. Puis, si vous voulez, voilà, merci comme ça.
Je vais écrire comme ça.
Notre copain Chicho de Barcelone peut écrire en français mieux que moi, comme ça je ne vais pas faire des fautes. Et on écrit juste les 3 parties de ce livre parce que ce n'est pas vraiment des parties qui ont une vision globale dans le sens qu'on n'a pas une thèse à la base à développer, c'est un tentatif de voir s'il y a des points d'affinité entre des phénomènes qui se déroulent aujourd'hui, donc des gros phénomènes sociaux, Facebook, Wikileaks, les partis pirates, la révolution, les printemps arabes, c'est des grands phénomènes qui ont toujours à faire avec les sujets, notre sujet, la technologie. Quelle est donc la liaison, s'il y en a, les affinités qu'il y a là-dedans? Donc on jette juste les trois parties de notre livre, et puis on peut, si vous voulez, si ça vous dit, on préférait de ne pas... Je ne sais pas si quelqu'un a lu le livre. Personne? Eh bien, ça va, hein? Ben, ça va, ok. Deux? Très bien. Donc, ça nous cale un peu. Qui a Facebook? Un compte Facebook? Voilà, plus. C'est vrai? Ça, c'est important, hein? Donc, on
allez,
peut...
Dénoncez-vous.
On n'est pas... Donc, on va dire donc que là, on est déjà en niche. On est en niche, parce que la plupart des gens ont un compte Facebook. Qui a un compte Twitter? Un peu moins. Donc, on est encore dans la niche de la niche. Voilà. Vous saviez déjà, mais c'est juste pour remarquer.
Et qui a un compte N-1?
Qui a un compte N-1? Vous savez qu'est-ce que c'est N-1? Voilà. Voilà. Ça, c'est intéressant.
Donc là
c'est...
Vas-y, j'écris lentement. C'est comme les réseaux sociaux.
Ça. Non, vas-y, c'est très lent. Gmail, très bien. Gmail.
Ok.
Bon, donc, je ne sais pas quelle utilisation vous faites de tous ces trucs-là, mais on peut dire qu'en général, l'utilisation de ces machins technologiques, c'est quelque chose de très très présent dans nos vies. Peut-être vous êtes cycliste, vélorussioniste, bon, ok, il y en a. Est-ce que on peut faire une comparaison entre la technologie du vélo et la technologie de ce type de technologie? Dans le sens de dire, on préfère de savoir un peu comment ça marche, c'est ça notre idée. Savoir, c'est pas nécessaire de savoir souder, je veux dire, son cadre de son vélo. C'est faisable, c'est intéressant, mais pour l'utiliser, au moins savoir des choses basiques, ça serait mieux de rien savoir. Ça, c'est un postulat, encore une fois, c'est pas démontré. Encore que, c'est pas évident que des technologies qui ont des niveaux complètement différents peuvent être vraiment, on peut en faire la comparaison. Donc, en fait, on ne fait pas des comparaisons. On va toucher, justement, seulement ce qu'on appelle une ère des familles. Il y a une ère des familles dans l'idée de Facebook de nous dire, dites tout ce que vous voulez, dans le sens de jeter dehors, dans le sens de libérez-vous, et une ère des familles avec ce que nous dit Twitter, bah, dis maintenant ce que tu penses, c'est très important, tu le dis, t'es quelqu'un de très important, t'as des followers, t'as des gens derrière, il faut le dire quoi. Maintenant, réfléchis pas parce que ça passe, donc c'est là le moment. Et l'idée qu'on peut être mieux dans notre monde si on dit tout, c'est-à-dire qu'on appelle dans le livre la transparence radicale, l'idée que on sera d'autant mieux, toujours mieux au fur et à mesure qu'on partage, et ça c'est intéressant aussi, l'idée que Le partage, c'est un maître mot, un motto de Facebook, de Twitter, de Web 2.0. Le partage, c'est quelque chose que pour nous, c'est quand même plutôt important, parce que si on écrit des choses, il faut bien partager les idées, les outils, les temps d'écriture aussi, les compétences. Mais ce partage, quand cela devient quelque chose de automatique, tu prends des photos, tu les jettes tout sur les réseaux, devient automatique, pour nous, cela pose un problème qui devient un problème social. Voilà. Je m'arrête là, si vous voulez. Dans le sens que je vous dis les trois parties de notre livre, comment ça marche, ces livres-là, qui vous pouvez acheter, hein, mais aussi vous pouvez nous demander de vous envoyer le fichier. Et ce qui est plus important, ce n'est pas un crime de les copier, ce qui peut être amusant à penser, mais en fait c'est un crime, c'est un délit pénal de copier et diffuser des livres. Vous le saviez? Bon.
Grâce à Grécy.
Et pas que. En fait, c'est un délit pénal dans toute l'Europe, toute l'Amérique, parce qu'il y a des lois qui font que si on diffuse des matos sous copyright, chaque copyright infringement,
violation du droit d'auteur,
c'est devient un délit pénal. Donc, cela n'est pas un délit pénal de diffuser, qui est pour nous déjà quelque chose. Voilà. Et les trois parties du livre. La première partie, c'est vraiment contre Facebook, parce qu'on prend les plus grands et on s'attaque. Voilà. J'ai 1000 amis, mais je connais personne. C'est peut-être vrai, c'est peut-être faux. Ce qui est sûrement assez vrai, c'est que si on est sur Facebook, on n'est pas dans la rue. En gros. On peut avoir des portables et être dans la rue. Ouais, ok. Mais quand même, on est sur les portables, quoi. On est sur les smartphones. Bon. Deuxième. Les projets libertariens à la conquête du monde, les réseaux sociaux, le hacking, militantisme, politique, institutionnel. Là, on a tracé une petite ligne, mais très détournée, entre les projets politiques qu'il y a derrière Facebook, qu'on a décodé un peu comme anarcho-capitalisme, et si vous voulez, on pourra aller plutôt dans cette direction, et des autres projets politiques qui sont en train de se développer beaucoup, en Europe aussi, notamment les partis pirates, notamment le système de nous donner tous, sans filtre, des Wikileaks, et l'idée que cela est bien toujours, avoir plus d'informations est toujours mieux qu'en avoir peu et très filtré. Et l'idée que ces groupes-là ne sont pas toujours la même chose, mais il y a des affinités. Troisième partie, les libertés du réseau, c'est-à-dire du militantisme des salons aux technologies conviviales, qui est un peu un projet de ce qu'on voudrait nous. L'idée que on a des portables, on a des ordis, on essaye de les utiliser d'une façon meilleure, vu qu'on est déjà involucré. On peut aller sur la montagne faire les érémites, mais c'est pas notre jeu à nous. C'est de nous engager mieux. Voilà. Donc ça, c'est les trois parties. Moi, j'arrête là. Et je sais pas si tu veux lancer quelque chose plutôt de philosophique politique, si vous avez déjà des idées pour amener la discussion, si vous avez des trucs qui vous frappent, des pratiques ou des questions vraiment pratiques sur comment ça marche, les trucs derrière, voilà. Je devais être un peu plus... Non ? Ça va ?
Je crois qu'il faudrait qu'on passe pas à côté quand même du formidable racket commercial de Google
Il y a la partie culturelle, mais il y a la partie commerciale et industrielle qui est un racket fabuleux, qui rapporte un truc fou. Alors, moi, ils ont parlé de prix. Et qui devient absolument incontournable pour plein de boîtes. C'est soit vous êtes sur Google, soit vous existez vous. Donc ça devient une arme absolument énorme. Pour le côté culturel derrière, effectivement, le côté politique, entre guillemets, c'est effectivement c'est important, mais je pense que c'est. Ils ne peuvent faire ça parce qu'ils ont un truc absolument fou, parce qu'ils raquettent toutes les entreprises.
Raquette des entreprises. C'est-à-dire qu'on est, contrainte d'être là-dedans.
Tout à fait. C'est ça le problème.
Et ça, c'est un truc intéressant qu'on nous a dit en Espagne. On était à Barcelone, je crois.
Où, à Saint-Malé.
Il y a quelqu'un qui nous a dit, nous on a un groupe animaliste, pour les animaux, pour la défense, la libération animale, machin. Et dès qu'on est sur Facebook, on a beaucoup plus d'audience, des gens qui participent. Donc pour nous, Facebook, c'est un truc incontournable, c'est trop important de l'avoir. C'est un peu l'idée d'avoir une constriction, d'être obligé à utiliser. Ce qu'on appelle une pression sociale à l'homologation dans l'utilisation de la technologie. Et je ne sais pas si vous êtes... ça, c'est une question controversée. Est-ce que les mouvements sociaux, qui se veulent plus radicaux, ont de l'intérêt véritable à utiliser Facebook, Twitter, Google et machin, ou bien est-ce que c'est de la ils sont ractés d'une certaine façon, ils sont obligés à l'utiliser. Là, on n'a pas des réponses, mais on a des idées. Je sais pas si on lance comme ça. Hein, c'est...
Par rapport à Google, je pense que, je ne sais pas, mais peut-être vous parliez du fait du référencement. Si jamais on n'est pas référencé par Google, oui. On n'existe quasiment plus, du moins dans la sphère la plus large d'utilisation d'Internet d'aujourd'hui. Qu'y a-t-il comme alternative, en fait, pour des institutions quelle est l'alternative existante à Google pour une diffusion de masse? Par exemple, quel est le moteur de recherche que vous utilisez? Vous utilisez un moteur de recherche.
Ça, c'est intéressant.
Ouais. Il y a peut-être, dans ce que tu dis, il y a aussi un autre...
Tu parles de manger près.
Ouais, si tu veux. C'est-à-dire que nous, on se rend compte que... Ouais, je parlais plus tard. On se rend compte, en fait, que, effectivement, on peut toujours parler d'alternatives, mais des outils comme Google, comme Facebook, ce genre d'outils-là, ils sont créés à partir d'une société qui les commande. C'est-à-dire qu'ils ne viennent pas, ils ne sont pas faits par des gens qui sont dans des perspectives militantes, anti-autoritaires ou que sais-je. Donc déjà, ils répondent à des nécessités et ils transforment le monde en fonction d'un système qui, moi, personnellement, vous, je pense probablement ici, me dégoûte. Le truc, c'est que quand on cherche l'alternative, parce qu'effectivement, on se dit « Ah, c'est un formidable moyen de se mettre en contact, etc. » Oui, mais quand on cherche l'alternative avec nos moyens technologiques, on ne pourra jamais fabriquer un Google alternatif, un Facebook alternatif qui aura la même portée. Parce que quand on fait, et ça c'est un peu de ça qu'on a traité avec les questions des technologies conviviales, on peut essayer de créer plein de choses, et on a plein de choses qui sont intéressantes, mais qui n'auront jamais cette portée-là. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'alternative pour qui veut la portée de Google ou de Facebook, il n'y a pas d'alternative à Google ou à Facebook. C'est évident. Et le problème, c'est que Google et Facebook nous posent des problèmes dans les pratiques par rapport aux pratiques qui sont les nôtres.
Google est rentré en bourse. Ça se passe moyennement, apparemment, en Facebook. Pardon, excusez-moi, Facebook.
Google aussi, ça fait plus longtemps. Ouais, en
fait. Mais vous pensez que la création de Facebook avait déjà en arrière-plan une logique mercantile,
oui.
Ou est-ce que vous pensez que c'était un projet
qui n'avait pas eu toute cette vocation et presque philosophiquement acceptable. Vous avez des amis, on partage. Parce que déjà, il y a l'anguille sous roche. Là, là, il n'y a pas d'ambiguïté. Pour moi, en tout cas, je sais que Facebook, c'est une plateforme. Hein. Mais est-ce qu'à l'origine, d'après vous, c'est une dérive ou déjà, c'était déjà pourri dans l'œuf dès le départ?
La question qui a été abordée est la question de la taille. Si un outil technologique se pose en tant que réponse à un besoin, un désir global, forcément, il y aura les problèmes qui se posent de la mercantilisation, marchandisation, etc. C'est-à-dire que si on regarde Facebook comme il se pose maintenant, il se pose en tant qu'outil gratuit. Il est gratuit, il sera toujours gratuit. Bon, on sait bien que c'est pas vrai, dans le sens que maintenant même, il faut payer pour avoir des résultats meilleurs. Cela s'est passé il y a quelques semaines. Ils ont commencé pour justement les contraintes des bourses à dire il faut que ça devienne rentable aussi d'une autre manière qui ne soit pas seulement la profilation publicitaire des intérêts des individus et de leurs amis. Il faut que cela devienne rentable aussi d'une perspective je paye, j'ai une visibilité et donc c'est pas gratuit et ça c'est évident maintenant plus que jamais. Mais c'est pas gratuit dès le début. Dans le sens que, s'il n'y a pas un prix affiché quelque part, s'il n'y a pas un investissement des temps, des compétences, d'énergie, d'argent, ça signifie que la marchandise, ce sont les usagers. La profilation, la publicité, qui permet l'existence gratuite du web 2.0, c'est-à-dire tous les services du monde, Google c'est gratuit, Gmail c'est gratuit. C'est gratuit parce que la marchandise c'est nous, nos données, nos préférences, nos goûts, etc. Donc si la question est-ce que cela a pourri dès le début, dans ce sens-là, oui, forcément, parce que l'idée de donner une réponse à tout le monde gratuite ne colle pas avec la réalité. C'est une réalité d'un monde marchand. Si on était dans le monde, utopique, où il y a des échanges différents, on fait. Mais de toute façon, comme on disait sur les alternatives, on ne peut pas faire des alternatives à la taille de tout le monde. Parce que cela entraîne une échelle hiérarchique dans laquelle il y aura forcément la nécessité d'exploitation. Et s'il n'y a même pas l'exploitation, mais ce qui est nécessaire dans une hiérarchie, mais dans une hiérarchie fixe, il y aura quand même l'effet de homologation. Parce que c'est une seule réponse. Alors que être d'un côté de la différence, ça signifie valoriser les différences. Après, sur les questions d'identité sur Facebook, il y aurait un tas de choses à dire. Parce que c'est vrai aussi qu'on peut l'utiliser pour nos affaires à nous. Ça, c'est pas faux. C'est-à-dire que ça fonctionne. C'est pas vrai que ça fonctionne pas. Mais ça fonctionne, on pense, seulement si nos intérêts collent de quelque manière avec les intérêts de la plateforme. Les intérêts de la plateforme sont la diffusion à tout le monde de toutes les informations. Après, on peut discuter s'il y a un arrière-pensée idéologique. On pense que oui. Mais cela ne signifie pas que si notre intérêt est de diffuser à tout le monde sans penser qui on a de l'autre côté, ça fonctionne très bien. Je sais pas si j'ai répondu, et on pourrait rebondir sur la question identité.
Parce que Google est un acteur, c'est-à-dire que c'est Google, enfin moi je parle de Google parce que c'est le seul que je connais, parce que je leur donne beaucoup d'argent, et qu'effectivement je pense que Facebook c'est un Google raté, c'est un Google qui n'a pas encore, ses moyens de financement. Mais c'est Google qui crée le désordre, c'est-à-dire pour la quelle que soit la question, vous avez 10 000, 20 000, 30 000 réponses, et c'est Google qui propose le moyen de lutter contre le désordre en vous mettant en avant. C'est-à-dire qu'ils ont un système qui leur permet... d'attirer le fric, quoi, d'attirer le, si vous voulez apparaître pas plus loin que deuxième ou troisième page, il faudra soit payer directement pour faire du lien payant, soit vous organiser de telle manière, comme font les identitaires, pour faire des tas et des tas de blocs qui se répondent entre eux et tout, de manière à ce que l'information arrive à être, même un mensonge éhonté, arrive en première page, parce que de toute façon, les 20 ou 30 ou 40 premières réponses, c'est cette même réponse-là qui a été mise sous des formes différentes par des groupes de pression. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont spécialistes dans le référencement Google, il y a des gens qui ne sont pas spécialistes, mais comme les identitaires, qui se servent extrêmement bien de ce machin-là, qui saturent complètement l'outil. Et je pense que Google n'est pas innocent là-dedans, c'est-à-dire qu'ils ne se font pas baiser. C'est leur système de fonctionnement, c'est eux qui créent des ordres. Quand il y a des gens qui arrivent à créer du lien de telle manière à ce que ça arrive en tête, ils en profitent aussi. C'est-à-dire qu'après, il y a des gens qui vont essayer de réagir contre ça et qui vont réinvestir là-dedans pour lutter contre ce machin-là. C'est-à-dire qu'ils profitent de tout, ils profitent de la pierre des merdes comme ils profitent de trucs réels, et ils ont mis en place ce machin-là, et c'est vraiment extrêmement vicieux. C'est pour ça que je dis que c'est un racket généralisé, parce que c'est pas que sur le plan commercial, c'est sur le plan politique, sur le plan social. Donc ils tirent profit de toutes les tendances, quitte à les créer. Ouais.
C'est peut-être gratuit pour l'utilisateur, mais pas forcément pour celui qui veut apparaître justement sur Google.
Ouais, mais ça a l'air. Fais ça et après, je pense qu'on peut le faire technique à ce moment-là. Si tu veux, idéologie.
Ok. Sur la question. Ah, ouais.
Peut-être pour repartir plus sur les idéologies. C'est plusieurs fois que tu fais référence au fait qu'il y a une idéologie derrière Google, il y a une idéologie derrière Facebook. Et tu fais notamment fortement la différence entre les idéologies qui sont derrière Facebook et Google. Et tu pourrais creuser ça pour le moment, je vais essayer d'en parler un peu.
Si, on s'est demandé si c'était le cas de... Ok, c'est le cas. Ce qu'on a esquissé dans le bouquin au niveau de l'idéologie, c'est une différence très nette entre ce qu'on prend comme exemple Google et on prend comme exemple Facebook. Donc d'un côté, un investissement très fort dans une idéologie de la connaissance, Google, et de l'autre côté, un investissement très fort dans une idéologie de l'identité. C'est-à-dire, et de la transparence de l'identité. Donc, on a fait une différence nette entre ce qu'on appelle l'épistémologie, la connaissance, Google, un projet politique même sur la connaissance, sur la gestion et domination d'un point de vue de la connaissance, qui était le sujet du livre précédent, La face cachée de Google, et un projet politique qui est un projet politique de gestion, non pas des connaissances, mais des identités. C'est-à-dire que, de ce point de vue, on peut dire que dans Google, il y a quand même des choses si on n'est pas là. On peut consulter Google. Parce que il y a des connaissances qui peuvent être stockées, puis on peut parler du fait qu'on est d'accord ou pas d'accord avec la manière dans laquelle les connaissances sont stockées et nous sont présentées, qui est la question des références. Je suis pas d'accord que les premiers résultats soient tels là. Et ça, c'est une autre question. La question à la base politique, c'est de dire, nous, on fait un investissement sur la connaissance, parce qu'on a une idéologie derrière, qui de quelque manière est une idéologie des Lumières. l'idéologie de la connaissance pour tout le monde. Après, les problèmes, c'est que c'est des lumières gérées par une société privée pour des raisons de
fric
commercial. Ça, c'est. Mais de toute façon, il y a une idée politique des gestions des connaissances qui est bien différente de l'idée des gestions des Facebook qui ne gère pas des connaissances, gère des identités et des relations entre des qui passent entre des identités différentes, des groupes, des individus, etc. C'est-à-dire que Facebook, s'il n'y avait pas des usagers, n'existerait pas, ce qui est très différent. Et dans notre recherche, ce qui sort un peu, c'est que effectivement, il y a des affinités entre les projets de gestion des identités de Facebook, qui a démarré à la fac en 2004, à Harvard, et puis est passé à West Coast, aux États-Unis, avec M. Mark Zuckerberg. J'imagine que vous avez vu le film de Social Network, si vous n'avez pas vu. De toute façon, c'est un jeune gars qui était dans sa chambre, dans la meilleure tradition des hackers geek américain, qui a inventé le truc, ça c'est la mythopoïèse du truc, bon, il a inventé le truc, pour avoir plus de rendez-vous avec des filles. Ça c'est l'idée à la base. Parce que dans les facs américaines, on a les books, les livres qu'on signe, les copains signent les livres, les profs signent les livres, c'est comme... Je sais pas, en Italie on a la smemoranda, je ne sais pas ce qu'il y a ici. C'est-à-dire un truc qu'on utilise à l'école pour montrer sa face aux copains. Voilà. Et Facebook, à la base, c'est ça. Après, ce qu'il y a, c'est qu'il y a eu un investissement financier très fort. Et c'est un investissement qui a un côté politique. Parce que la personne qui a investi dans Facebook, c'est M. Peter Thiel, qui est un déclaré libertarien, c'est-à-dire un anarcho-capitaliste, qui a des idées très nettes sur comment on devrait gérer la société, sans État, sans institution, avec une idée seule, c'est-à-dire la liberté des individus de faire ce qu'ils veulent. La liberté des individus, comment on peut la mesurer? Il y a un mérite. Et les mérites se mesurent sur la base de la puissance des technologies qu'on a à la main. Donc c'est une idée de ce qu'on appelle le darwinisme technologique. Le marché parfait, c'est un marché de connaissances parfaites, de transparence totale des individus face à la machine. Donc, on dit que derrière Facebook, il y a une idéologie politique forte, notamment, ça s'appelle le right libertarianisme, qui dans les États-Unis, c'est le quatrième parti. Les right libertarians aux États-Unis, c'est le quatrième parti. Démocrate, républicain, green radical, mou de radical, je sais pas quoi. Et puis les libertariens, qui ont beaucoup de fric, beaucoup, beaucoup de fric. Monsieur Peter Thiel est l'un des 400 hommes plus riches du monde. Il fait des investissements sur PayPal, qui a inventé et fondé, qui est un projet politique pour enlever aux États la possibilité de gérer la monnaie. Après, c'est un projet financier, c'est un projet qui fait du fric. Bah, bien sûr, les anarcho-capitalistes. Voilà. Mais il n'empêche qu'il y a un projet politique derrière. Après, c'est... Je sais pas si j'ai un peu encadré la situation. Vous avez jamais entendu parler des anarcho-capitalistes? Oui, quand même, un peu. Voilà. Ça, c'est un peu ce qu'on a vu derrière, en creusant un peu sur le financement de Facebook. Ce qui est intéressant, c'est que maintenant, M. Peter Thiel a lâché un peu. C'est-à-dire que il a racheté son fric. il n'a pas lâché tout l'investissement qu'il avait fait, mais quand même, il a vendu une bonne partie de ses actions et il a beaucoup, beaucoup de fric, plus qu'avant. Pour faire quoi ? Par exemple, un projet qui s'appelle Seasteading, Homesteading, être à la maison, l'habitat. Seasteading, être dans l'océan, dans la mer. Il va racheter des plateformes de pétrole dans le milieu de l'océan, hors contrôle de l'État, pour faire des communautés autogérées, identitaires, des gens qui pensent de la même façon, des gens qui aiment les mêmes choses, où il n'y a pas de conflit, parce que tout conflit est géré par les machines, par une technologie parfaite. Et ça, c'est... Vous allez sur Internet, vous trouvez. Seasteading, Peter Thiel. Vous trouvez. Il y a les références dans le livre. C'est pas... On a pas de sources préférentielles. C'est tout public. Complètement public. Donc, voilà. C'est assez intéressant. Je sais pas. On a fait une présentation à Milan de ces livres en italien et il y a quelqu'un du public qui, dans un endroit pas vraiment comme ça, mais de toute façon un endroit libertaire, il y a quelqu'un dans le public qui s'est levé, qui a dit, bon, moi je suis un anarcho-capitaliste, j'ai eu 300 000 euros de financement de venture capital, capital de risque, pour faire une plateforme de gestion sociale, un réseau social. Je vous propose qu'on se mette d'accord. On a les mêmes ennemis, l'État. Donc pourquoi pas? Et je vois dans ces trucs vraiment le fait que l'idée de rester sur les réseaux sociaux faite par des gens qui ont comme but final la marchandise, moi je trouve dangereux. Vraiment dangereux. Et c'est pas pour dire qu'on est à risque parce qu'on est dans un pays où il n'y a pas de problème, en fait. On est privilégié. Donc, il faudrait bien profiter de son privilège pour faire quelque chose de mieux que Facebook. Voilà. C'est juste ça. Je sais pas si... Je ne voulais pas baisser dans le sens de dire on est dans la merde, mais un peu quand même. Hein. Voilà.
À un moment, tu as esquissé ce débat de savoir est-ce que les actifs, les militants, ils doivent aller sur Facebook. Bon, là, il y a ce petit texte qui tente, je n'en ai pas imprimé beaucoup, il y a une traduction d'un texte qui a été écrit par un groupe de gens qui montent des serveurs depuis un paquet d'années et qui s'appelle Nadir, qu'on connaît mieux en France parce qu'ils hébergent le site de contre la ZAD, et eux, ils répondent clairement non. Et je les soutiens à fond, quoi. C'est pour ça que j'avais envie de diffuser ce texte ce soir. Parce qu'en fait, c'est une machine, Facebook, et qu'on ne peut pas aller dessus sans alimenter tout un processus de fichage et de surveillance des groupes politiques, de nos modes d'organisation, des personnes qui sont centrales. Et on ne se rend pas compte à quel point, en fait, être sur Facebook met en danger. Alors, on peut dire, oui, moi, je suis sur Facebook, c'est mon choix, elle va mourir. Mais en fait, c'est pas ça qui se passe. C'est que quand on est sur Facebook, on expose tout un tas d'autres gens qui peut-être n'ont pas envie d'y être, par exemple. Et leur système de... Les algorithmes qui sont utilisés pour reconnaître les visages sur les photos sont effrayants d'efficacité. Et envoyer une photo sur Internet à l'heure actuelle, particulièrement sur Facebook, mais en fait partout ailleurs aussi, sur lequel on voit le visage d'une personne, c'est un acte où on va amener cette personne à être fichée. Enfin, je veux dire, il faut être conscient de ça, quoi. Et du coup, à un moment donné, c'est pas possible d'être sur Facebook sans alimenter la machine, sans participer à la surveillance, et du coup, clairement, c'est non. Et utilisons des outils qui ne nous surveillent pas, quoi. Il y en a.
par exemple?
Eh ben, il y a tout un tas de gens qui montent des serveurs autonomes qui sont impliqués dans les réseaux sociaux.
Mais non, que ce soit, non, on veut le nom.
Nadir.org, en l'occurrence, riseup.net, celui dans lequel je fais partie, potager.org, grisy.org, organise la soirée ce soir. AOCG Inventati en Italie, Nodo Cinquenta en Espagne, plein quoi, il y en a.
Bon, moi je rajoute je comprends pas le français. Non, c'est vrai, Rise Up, bon.
C'était pas sympa, tu vois. C'est, ça,
c'était pas sympa.
Tu peux écrire Rise Up, s'il te plaît.
Rise Up, ok. Rise Up.
Ah, c'est point net, je crois.
Point net, ouais, t'as raison. Alors, bon. Et donc, on a des possibilités. On n'est pas complètement foutu. Ça, c'est déjà quelque chose. Une question qui saute aux yeux, si vous utilisez des trucs comme ça, on rajoute N-1, non? Lauréat.
Mais non, mais N-1, c'est tout. Lauréat, c'est le projet général.
Ouais, N-1.
N-1.
Ok. C'est un projet de... réseaux sociaux autogérés. Si vous utilisez des trucs comme ça, vous auriez sûrement des problèmes. Sûrement. Je veux dire que ça fonctionne pas bien comme Facebook et comme Google. Bon, je sais parce que je fais des trucs sur... On est derrière, des fois, non? On est là. Et il y a quelqu'un qui te dit, bah, ça marche pas, ma boîte mail, il y a des problèmes, ça marche pas, quoi. Vous faites quoi, toute la journée? Alors, bon, je bosse, hein. Bon. Ça, je trouve, c'est les problèmes. C'est un double problème. C'est les problèmes des usagers, c'est de dire, on a une habitude, notre habitude, c'est Google. On ne parle pas de Facebook, même pas. On parle des mails. 10 gigaoctets de puissance. Voilà. Et tout de suite, hein. Vite. Bon. Nous, autistici, mais tous les autres, on ne peut pas le faire. On ne peut pas tenir les rythmes auxquels on a déjà l'habitude. On ne peut pas. Et les services qu'on peut fournir maintenant, ont du mal à s'en sortir. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas gratuits. Pas du tout. Il faut payer. Je ne dis pas qu'il faut payer les boulots, même. Très bien, hein. Mais bon. On dit simplement qu'il faudrait payer les serveurs, l'électricité, voilà, les factures, quoi. Bon. Et déjà, ça, c'est compliqué. Tous ces serveurs-là ont des problèmes avec ça. Le problème que Google, Facebook et machin n'ont pas du tout. Parce qu'il y a la bourse, il y a l'accumulation du capital.
Il y a le profilage.
Il y a le profilage. Ça marche très bien. Il y a les projets politiques derrière. Alors, ce que je veux dire, c'est que assumer vraiment le fait que... Libre, ça signifie pas du tout gratuit, c'est pas évident. Je dis pas que c'est impossible, mais on a l'habitude sociale, avec ces outils-là, à utiliser plein de trucs qui nous sont donnés d'une façon gratuite, et on trouve trop bête de payer pour des trucs qui fonctionnent mal.
C'est le problème de la société, on vit comme une adab.
Voilà.
De suite, tout le temps.
Voilà. On a touché des points. Bon.
Je me posais la question, c'est une... Je ne parle pas de Facebook, hein. Je ne suis pas familier, je sais à quoi ça sert, mais je ne suis pas du tout utilisateur ni familier, mais je parle de Google, qui est un outil, je pense, assez partagé par pas mal de gens, c'est parti d'une initiative privée. Aujourd'hui, effectivement, Google est une véritable, une grande aventure sur le plan de la réussite économique. Et on a raison de penser un certain, enfin de dire ce que vous dites, on peut y souscrire en disant qu'effectivement, il y a quand même l'objectif du profit derrière et qu'il y aurait beaucoup à redire là-dessus. Si on considère qu'on est effectivement dans la suite, où je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est-à-dire on est un peu dans la suite des Lumières. Ça, après tout, c'est une fonction, c'est une théorie de la connaissance. La connaissance, cette fois-ci, distribuée, non plus réservée. Après tout, pourquoi ne pas imaginer quelque chose qui serait de l'ordre du service public? Après tout, au fur et à mesure, on prend l'exemple du train. Les premières expériences de train, je ne sais pas dans tous les pays, mais en France, c'était des compagnies privées. Jusqu'au moment où on s'est aperçu que ces compagnies privées ne faisaient pas vraiment l'affaire. Effectivement, elles avaient surtout un problème d'intérêt. Jusqu'à qu'on réunisse en France quelque chose qui s'est appelé la Société Nationale des Chemins de Fer, comme vous avez sans doute en Italie. On pourrait très bien penser que si ça devient effectivement un service utile à la société et incontournable dans le monde dans lequel on est, quelles que soient les critiques qu'on peut faire par ailleurs, pourquoi on ne pourrait pas imaginer qu'effectivement, il y a en quelque sorte, la puissance publique prenne en charge effectivement un moteur de recherche qui n'aurait pas derrière, avec effectivement les contrôles démocratiques qui feraient qu'il n'y aurait pas la gestion du fichage automatique, il n'y aurait pas de publicité cachée ou payante, etc. Et troisièmement, il n'y aurait pas effectivement tout le système de référencement. Enfin, on pourrait, je pense, contourner le problème du référencement de manière intelligente sur le plan informatique. Aujourd'hui, Facebook, Google est lâché dans le truc. Donc, effectivement, les gens qui veulent tricher avec le référencement, c'est assez facile. Mais on peut imaginer qu'effectivement, des gens qui ont une vision du service public et qui veut apporter un produit, un outil de connaissance publique sur lequel il n'y a pas de l'argent à se faire, mais simplement à aider les citoyens à justement jouer leur rôle dans le monde du 21e siècle, où la connaissance devient un outil important, on pourrait penser que ce serait une alternative à penser, à imaginer, face à ce... Parce que Google ne serait dans ces cas-là qu'un pionnier privé, comme il y a eu effectivement des pionniers privés sur le téléphone. Le téléphone aussi a été le téléphone. Ah ben non, mais je sais que maintenant le téléphone s'est reprivatisé, mais les premières compagnies de téléphone étaient des compagnies privées, avant que les choses se réunissent aussi dans un service public.
Je pense que ça peut se faire, et on est en train de le faire en Chine.
En Chine, ah oui, sous l'égide dans une sorte de capitalisme d'État.
En Chine, on est en train de faire exactement ça. En Chine, Facebook est interdit.
Je crois qu'il y a un moteur de recherche chinois qui paraît dire encore plus...
Ren. Je ne sais pas comment on prononce.
Ren. Comme Ren. R-E-N.
Ren, je ne sais pas comment on écrit en chinois.
J'ai vu quelque chose qu'on peut dire qui s'appelait Bing.
Ah, Bing, c'est Bing, c'est Microsoft, hein. Microsoft.
Ah,
rien à voir.
Excusez-moi.
Non.
D'accord. Donc c'est bien un moteur de recherche.
Ouais.
D'accord. Donc l'État, quasiment.
Ouais, dans le sens que la réponse, si la réponse est une réponse publique, cette réponse publique, ça devient un capitalisme d'État, et les capitalismes d'État qui fonctionnent mieux à l'heure actuelle, c'est la Chine. Je ne sais pas si on veut échanger les États-Unis avec la Chine.
Non, c'est pas la Chine. On est en France ici. On n'est pas en Chine.
Mais Google est aux États-Unis. C'est ça le truc.
La France a d'autres traditions.
Pardon, pour faire un exemple un peu plus proche, en Italie, personne ne s'attendrait que le public serait mieux que le privé.
Non,
c'est un exemple plus proche, mais très différent. Oui, L'Italie, c'est très différent, mais... Je crois qu'en Italie, personne n'aurait posé cette question-là.
Oui, ouais, déjà. Il y a des... Ah, on fait une liste où quelqu'un tient les interventions parce que...
Moi, je vais réagir là-dessus parce que c'est un peu incongru comme intervention. Dans l'absolu, il n'y aurait pas d'État. Dans l'absolu, il n'y aurait pas d'État. On s'autogérerait. Et dans l'état actuel, il y a des États, je ne vois pas l'intérêt. Pas. Je vois bien l'intérêt qu'ils auraient à gérer toute cette masse d'informations de circulation, et je ne pense pas qu'ils le feraient pour nous bien. Et je pense que si c'était l'État qui gérait ces logiques, ces, bon, excuse-moi, ces trucs, ces trucs, ben, du coup, ils feraient leur propre fichage, la police aurait encore plus de renseignements, etc. Ben, j'imagine pas d'alternative de ce côté-là. Ils font déjà tout ce qu'ils peuvent pour avoir un maximum d'informations sur tout le monde. Il manquerait plus que après d'aller directement envoyer des photos de famille à la police.
Est-ce que tu connais, sur le sujet de la police, est-ce que tu connais les liens qu'il y a entre Facebook ou Google et le gouvernement américain ?
Oui, un peu, on peut en parler, mais... Oui, c'est ça. Non, je dis oui dans le sens que ça rentre un peu dans la question parano, tu vois. C'est juste ça, que on peut en parler. Nous, normalement, on cherche un peu de trouver des trucs un peu qui nous amènent dehors, parce que... Mais oui, on peut en parler.
Si ça intéresse les gens, mais ça peut être fond avec un autre chose qui a été dite, là, Wikileaks, ils ont sorti les manuels que Google et Facebook donnent aux flics américains sur comment demander des informations à Facebook. Ça, c'est un manuel pour la police, et ça dit... Si vous voulez une information sur une personne, voilà comment il faut nous la demander. Et donc ça, on a le document. Pour Facebook, pour Google, pour Yahoo, pour un tas d'autres choses, ça a été fuité, quoi. Si ça vous intéresse, je peux trouver les références.
Pour rapporter un élément à la question précédente, j'ai récemment entendu parler de Exalet, qui est un moteur de recherche européen. C'est un projet européen, donc qui est supposé avoir les qualités que tu as citées. Par contre, je ne sais pas trop sur quoi ils sont fondés, s'ils sont fondés sur la publicité ciblée. Mais en tout cas, ça existe. Et un intérêt direct, Christelle, c'est que pour l'instant, des pays européens ont des problèmes avec le Facebook et les journaux, si les titres des journaux sont plus indiqués dans Facebook. Donc si le moteur de recherche était européen, ils auraient moins de problèmes avec les journaux. Voilà. Mais j'en sais pas trop plus sur Exalet.
Peut-être pour apporter une précision par rapport à quelque chose qu'on disait avant. On est quand même assez intéressé sur la question de la taille. Et je pense que ça, c'est quelque chose d'intéressant. Que ce soit le capital ou l'État, pour nous, ça fait pas vraiment de différence dans la mesure où ça va demander une... puissance ou des capacités pour que ce soit des outils qui soient gérés, et du coup il y aura forcément une délégation de pouvoir, et c'est forcément des outils qui vont nous dépasser. Je veux dire, à la limite, on peut même dépasser la question de la parano, c'est évident, et de la surveillance, etc. Mais nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est de dire, bah, les réseaux à la Facebook, cette façon d'entrer en relation et de faire des choses ensemble ne nous intéresse pas, parce qu'il y a toujours une médiatisation, on passe toujours par un tiers, et nous on veut faire des choses beaucoup plus directement. Et donc forcément, le projet hégémonique de Google, il peut être pris par un État. Ça ne nous pose pas de problème. Mais nous, on veut sortir de ce projet hégémonique et reconstruire, à travers la technique, lorsque c'est possible, d'autres formes de relations qui vont pas demander des structures de cette taille-là, qui vont toujours finir par nous opprimer. Donc je pense que c'est un peu... c'est peut-être un discours un peu plus général, mais je pense que c'est, pour nous, c'est une réponse à ce genre de proposition.
Oui, c'est que les services, ils sont beaucoup trop larges. Quoi.
Ça... Il y a un grand problème de taille. Ouais.
Et les problèmes de taille, si vous voulez, c'est aussi un problème des consciences et des possibilités d'assumer la conscience de ce qui se passe. C'est-à-dire que dans la technologie qu'on vit à l'heure actuelle, on pense qu'il y a un problème avec la pensée critique qu'on a eue jusqu'ici, qu'on a développée en Occident, c'est-à-dire la conscience critique, okay. C'est-à-dire la distanciation un peu de l'objet pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Quand on a affaire avec des technologies si énormes, on peut sûrement tomber dans la parano et penser qu'il y a tout le pire derrière. Ce qui est intéressant, c'est que
quand on rentre là-dedans, on voit que c'est beaucoup pire de ce qu'on s'attendait. Dans le sens que nous, chacun de nous, difficilement peut assumer les problèmes que cette technologie entraîne. L'exploitation des masses asiatiques pour faire des iPads, l'exploitation des ressources minéraires mondiales et de l'Afrique en particulier pour extraire, pour faire les siliciums, les machins, les microprocesseurs, etc. La pollution globale pour envoyer tous ces machins d'un côté de l'autre. La pollution mentale de la publicité qui est nécessaire pour acheter, pour nous faire acheter ces trucs-là. Et jeter au lieu de réparer tout ça dans des outils, on ne peut pas l'assumer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, les projets critiques de l'Occident, de la philosophie occidentale, tombent là-dessus. On ne peut pas assumer ces trucs-là si on n'assume pas la question fondamentale de la taille, c'est-à-dire qu'il faut baisser la consommation. Baisser la consommation. Il n'y a pas de « non mais l'État, il prend dessus, non mais on pourrait faire autrement, mais d'une façon plus automatique, sans exploitation. » Non. Il faut baisser. Et même si on va baisser, il faut baisser beaucoup. Mais beaucoup. Parce que c'est pas possible que j'ai mes mails sur Google, et pour accéder à mes mails, je dois aller en Islande, parce que le serveur est en Islande. Les serveurs de Google, ils sont dans des pays froids parce que ça coûte moins cher, ça revient moins cher. Et aller là-bas et rentrer juste pour voir un truc qui m'a envoyé quelqu'un que j'ai pas dans mes poches. Il y a un problème de taille et d'utilisation quotidienne qui se pose, qui est réel. Et prendre conscience de ça, ça signifie prendre aussi une conscience qui ne soit pas trop malheureuse. Parce que si on pense à qu'est-ce qu'on fait vraiment là-dedans, c'est lourd, quoi. Et on pense, pour revenir au truc de la police et de machin, cette idée, c'est évident qu'il y a des relations, on l'explique un peu dans le livre, et Wikileaks est complètement là-dedans, il baigne vraiment dans le truc policier, d'infrontation policière avec les États, les services, les machins. Finalement, Anonymous aussi baigne là-dedans. Pour nous, c'est intéressant jusqu'à un certain point. Parce qu'on le sait déjà. Et on sait déjà qu'il faut baisser. C'est un peu dur à dire. Mais...
Si je peux juste finir, pour prendre un autre exemple qui est peut-être plus parlant, c'est quand on prend l'exemple du nucléaire. Il n'y aura pas de nucléaire autogéré. Il n'y aura pas d'énergie nucléaire autogérée. C'est pas possible. C'est-à-dire que ça implique une structure hiérarchique pour gérer ce type d'énergie et donc de la domination. Et ben, c'est l'analogie, elle vaut pour des outils comme Facebook, comme Google, etc. Je veux dire, ça fonctionne exactement de la même manière d'un point de vue technologique.
Alors, pour continuer sur cette histoire de taille, je suis pas sûr que tout le monde dans la salle ici réalise la taille de Google, la taille de Facebook sur différents types de mesures. Je sais pas si on pourrait, s'il y a des gens qui ont des chiffres là avec eux, mais pour pouvoir se.
Donc des chiffres. Facebook a atteint 1 milliard d'usagers il y a quelques semaines. 1 milliard. Ça signifie la population de l'Europe plus la population de l'Amérique du Nord plus un peu plus. Voilà. Ce qui est intéressant de cette taille, 1 milliard d'usagers, c'est qu'il y a 800 millions d'usagers actifs, il y a 200 millions de comptes plus ou moins inactifs, ou doubles, ou pas vraiment utilisés, et il y a 1% des comptes actifs qui sont de bots.
Des robots.
C'est-à-dire qu'il y a 80 millions de comptes Facebook qui sont des robots. On a un robot, nous aussi, entre parenthèses, parce qu'il faut bien prendre des données quelque part. Vous savez. Donc, On a un robot nous aussi. Si vous voulez savoir comment ça marche, il y a un projet dans l'université de Vancouver qui est cité dans le livre. Et on peut faire un robot qui répond à des questions, qui lance des amitiés, qui reçoit des amitiés et qui est très actif parce que il est là tout le temps. Simplement. Voilà.
Il dort pas.
Il dort pas. Voilà. Donc, vous savez. Et ce qui est intéressant dans la question des robots qui revient à la question de la taille, c'est de dire que la pression sociale est à utiliser plus, plus de temps, plus de choses, une taille toujours majeure, et à se porter un peu comme des machines. C'est-à-dire, on ne fait pas trop des nuances, on ne fait pas des nuances. On dit blanc, noir. C'est pour ça que c'est très facile, c'est pas très facile, mais c'est assez faisable de faire des robots sur Facebook. Parce que, fin de compte, on a des algorithmes qui sont issus de la recherche de la social engineering, ingénierie sociale, qui nous explique assez bien PNL, programmation neurolinguistique, etc., qui nous explique assez bien comment les gens se rapportent aux machines en devenant de plus en plus mécanisés et comment on peut interagir avec eux en faisant des machines qui sont plus humaines des humains, finalement. Deuxième question détail. Oui.
Moi, j'ai pas compris le rôle des robots. C'est moi, du coup.
Les rôles des robots.
Ouais.
Bah, je t'ai dit les rôles des robots sur un truc différent parce que sur Facebook, c'est un peu mou l'idée. C'est-à-dire que ça peut s'utiliser pour un. Je suis un star télévisé. J'ai besoin de quelqu'un qui est là tout le temps. Je paye quelqu'un pour faire un robot. C'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est pour. Pour aller vite. Ou bien j'ai besoin de faire beaucoup d'amis parce que je veux devenir une petite célébrité. Beaucoup de choses un peu pareilles. Après, il y a aussi des raisons d'études, des recherches, machin. Mais il y a des robots sur Wikipédia, par exemple. C'est très important. La cinquième partie des articles de Wikipédia sont faites par des robots. Ça, c'est intéressant. Parce que il y a des sources. CIA World Factbook, le livre de la CIA des faits, de ce qui se passe, on puise avec des robots et on construit des articles de Wikipédia. La plupart des articles qui ont affaire avec des villes, Lyon, Grenoble est une ville de Mahin, sont des robots, Rambot en particulier, qui les a construits. Rambot a fait 30 000 articles de Wikipédia, qui est un robot qui a pris a puisé dans les CIA World Factbook et jeté sur l'internet 30 000 articles. Wikipédia compte. Donc, ce qui est intéressant de cette taille, c'est à quel point rester dans ces mondes nous investit dans une mécanisation des relations et dans une mécanisation des comportements et à quel point cette taille nous entraîne dans un processus de croissance illimitée d'exploitation technique dans le sens d'exploitation aussi des données physiques, de la matière, je veux dire. Les serveurs, un gigaoctet occupent de l'espace. Si on occupe plus d'espace, il faut plus de matière pour le faire. Il faut exploiter plus. Donc, ça change beaucoup si Google, qui a 300 millions de comptes Gmail, dit d'un jour à l'endemain, on passe de 10 gigaoctets à 12. Ça change beaucoup en termes des matières utilisées de matière brute. Et ça, c'est assez étonnant si on regarde la taille. Ça fait une quantité de gigabytes impensable. Et là, il y avait quelqu'un.
De gigaoctets, par exemple.
Quoi ?
Les serveurs de Google en Islande, ça représente quoi ? C'est une usine de combien de mètres carrés
Bah, ça, c'est. Si tu cherches sur Google, tu vas trouver. Non, je veux dire que. On peut parler des chiffres, mais c'est pas. Déjà, qu'est-ce que c'est un gigaoctet ? Voilà. C'est un milliard de caractères. Pas vraiment un milliard. C'est une puissance de 12, des 2, donc c'est pas vraiment un milliard. Mais un milliard de caractères. Tu peux t'imaginer un milliard de caractères ? C'est déjà compliqué comme taille. Pourtant, on a des machins qui peuvent gérer plusieurs centaines de gigaoctets. Donc, on va dire qu'un film, basse résolution, utilise moins qu'un gigaoctet, un film. Mais un film à notre résolution, parce qu'on veut bien un film à notre résolution, ça peut occuper 4. Ici, Blu-ray disque, 10, 20. 20 gigaoctets, il y a 10 ans, c'était quelque chose que même pas l'ordinateur plus puissant qu'on pouvait avoir à la maison avait 20 gigaoctets. C'était vraiment cool. Maintenant, c'est un film. C'est ça qui est la taille. Explosion de la taille. Et bientôt, on va envoyer des gigaoctets, des films des 20 gigaoctets par mail. Ça va arriver. C'est ça la direction. Et c'est ça qui est fou. Et que ça peut pas s'éteindre. Je sais pas si j'ai répondu à la question de la taille, mais on peut lancer des numéros tout le temps. Mais il y a plusieurs centaines, dizaines de milliers de serveurs connectés pour faire un seul data center. Google a une vingtaine de data centers dans tout le monde. Un serveur peut tenir à, je sais pas, 2, 3 pétabytes de données. C'est-à-dire, il faut faire des puissances,
Beaucoup.
Beaucoup. Non, c'est pas beaucoup, c'est trop.
C'est énorme. Trop beaucoup.
Il y avait quelqu'un là derrière qui veut dire quelque chose.
Non, c'est bon. Pas grave. Les services secrets des bots qui s'en servent. Ils ne servent pas pour faire du renseignement à ce genre de trucs. Les robots que tu parlais tout à l'heure.
Ah ouais.
Les services secrets s'en servent pour faire du renseignement et ce genre de trucs, pour collecter des données, avoir des amis. Par exemple, moi je me fais un robot qui est absolument charmant et je me fais un ami. Et donc du coup, je récolte des données comme ça sur les gens. C'est possible ou pas, ou c'est une
possible,
pas.
C'est largement possible. Après, je pense que c'est plus simple avec la chaîne faible de la technologie, c'est-à-dire les êtres humains. Non, je ne sais pas.
Non, mais parce que moi, je suis ingénieur et bref, ils nous ont fait une histoire comme ça à mon boulot où justement ils nous disaient attention, faites gaffe à Facebook parce qu'il y a plein de gens qui peuvent s'en servir pour justement faire de la corruption ou faire passer des. Oui, plus ou moins des histoires de suicide qui s'est passé avec les gamins, des gens qui se retrouvent à délivrer des données qui n'ont peut-être pas envie que ça se diffuse partout, et qui nous aident et ils disaient qu'eux s'en servaient par exemple pour attraper des terroristes, ce genre d'imbécilité, bon bref. Et oui, moi je sais plus ou moins que les services secrets, ils sont très présents de Facebook, même cas. Enfin, les DST, les services de renseignement, ce genre de choses.
Ils ont raté mes rangs.
Ils utilisent
tout. Après, ça paraît assez évident dans la mesure où le but de Facebook, c'est de livrer des informations de façon transparente. Qui cherche des informations, s'il y a des informations qui sont livrées, ça paraît assez simple. Pourquoi ils ne serviraient pas?
Un autre, sans verser dans une théorie du complot ou je sais pas quoi, il y a peut-être un autre but de Facebook. Tout à l'heure, tu disais, au final, on fait des robots sur Facebook qui sont plus humains que les humains. Moi, ça me fait penser à à ce que raconte, enfin, à ce qu'a raconté Joseph Weizenbaum, qui est un des pionniers de l'intelligence artificielle.
Il s'appelle comment ?
Joseph Weizenbaum.
Ah.
Qui parle des gens qui font la recherche sur l'intelligence artificielle et qui dit qu'à force de vouloir calculer les humains, on va rendre les humains calculables non pas en faisant une meilleure technologie, mais en appauvrissant ce qu'est l'être humain. Et je me demande, quand on a cette analyse-là et qu'on voit à quoi sert Facebook, et comment au final c'est une machine à calculer qu'est-ce que je vais aimer, qu'est-ce que je vais préférer en fonction de comment j'aurais été coupé en petites boîtes. Est-ce qu'il n'y a pas un lien entre la volonté d'arriver à calculer les relations humaines dans Facebook et ce projet transhumaniste qui est de vouloir calculer les humains jusqu'au plus profond du cerveau?
Je
ne
dis pas. On pense que oui.
Ouais. Clairement,
sûrement, et en fait, il y a plus que ça, dans le sens qu'il y a aussi des autres projets universels qui vont dans cette direction. L'Église catholique, je ne le dis pas au hasard, parce que dans le livre, on les cite, les transhumanistes. Qui ne sait pas ce que sont les transhumanistes, sont en gros une secte californienne, des gens qui pensent que c'est déjà l'heure de dépasser l'être humain et de faire une descendance technologique qui soit un peu mieux, quoi. Donc, qui n'a pas de problèmes de santé, qui ne meurt pas, et genre des trucs comme ça. Voilà. En gros.
L'esprit humain qui partirait dans le réseau, en fait,
cette idée-là. Pas seulement l'esprit humain dans les réseaux, mais aussi même les corps. C'est ça qui est important. C'est-à-dire que... Pas seulement les prothèses aussi, mais aussi l'idée de renverser les cerveaux dans les machines.
La machine.
C'est ça que les projets de l'intelligence artificielle forte, elle a... Construction des cerveaux artificiels. J'arrive jamais. Par contre, l'Église catholique vient de réhabiliter un philosophe paléontologue français qui s'appelait Teilhard de Chardin, qui a inventé les mots, pas inventé, mais il a repris les mots de noosphère pour dire la sphère de la connaissance, qui pour lui c'était les points oméga, soi-disant, dans lesquels on voit la gloire de Dieu, qui est en fait la révélation d'un cerveau global interconnecté où tout cerveau se perd dans le plaisir de la connexion globale et machin truc. Voilà. Cette vision a été réhabilitée par les papes Ratzinger, machin, que, en fait, fait une liaison directe avec les projets transhumanistes de renverser les intelligences humaines dans des machines. Il y a un but final qui est effectivement dépasser les corps, dépasser les problèmes du choix, parce qu'il faut être transparent, donc les choix, c'est la machine qui était dans les choix. Et on est dans cette direction un peu. Parce que, est-ce que vous choisissez tous les livres que vous lisez? C'est pas Amazon qui vous dit, mais peut-être vous allez aimer ça, hein? Peut-être. Et normalement, il a raison.
Le pire, c'est ça.
C'est ça la question, parce que il vous connaît mieux que vous. C'est ça l'idée à la base de l'idéologie de la transparence radicale, c'est un peu ça. Vous donnez tous vos données à la machine, et la machine vous connaîtra mieux que vous. c'est assez divine comme idée. Vous allez confier tout à la machine et la machine va vous donner toutes vos réponses. Il y a des liaisons. C'est pas la même chose, mais il y a des affinités avec l'idée de la religion comme voilà, connaissance.
Je vais essayer d'être clair. J'ai vu une émission il y a, je sais pas, il y a deux semaines, mais je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû la voir. C'était sur Arte. Mm. Et je sais pas si vous en avez parlé avant que j'arrive, mais c'est à propos de l'école de la singularité. Donc qui a planté à côté de Google, en fait, j'ai cru comprendre ça. Si je dis des bêtises,
ouais,
il y en a
qui vont.
D'accord.
Singularité. Ray Kurzweil.
Et du coup, en fait, que. Enfin, moi, je suis arrivé au moment où il y avait un gars qui avait une bague, un ingénieur. il y avait plein de signes que je comprenais pas dessus, et il racontait ça, ça symbolise ça, enfin, un truc hyper sectaire. Et en fait, c'est une école où certaines personnes qui ont de très grandes capacités, à mon avis, en niveau informatique, etc., rentrent là-dedans. Et c'est complètement légal, et ça ressemble complètement à une secte, et ils travaillent en lien avec Google, apparemment. Donc, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, j'espérais que vous...
C'est un livre, il y a...
D'accord, voilà. Donc, je ne sais pas si vous pouvez parler un peu de...
Ça récoupe toujours avec la parabole.
Voilà, c'est ça. Par rapport à la parabole.
C'est un peu ça qu'on essaye d'éviter, mais. Bah. Les singularités, ça devrait être les moments où il y a les dépassements de la conscience humaine, dans le sens que l'idée, c'est d'un type qui s'appelle Ray Kurzweil, qui dit en gros, la singularité, c'est le moment où on ne pourrait plus comprendre qu'est-ce que font les machines. Donc les machines nous dépassent. Je pense qu'on est déjà là, en fait. Donc c'est déjà passé. Mais bon. Donc lui pense que les machines vont se reproduire et devenir autre chose qu'on ne pourrait jamais comprendre. C'est un peu ça, l'idée de la singularité. Ils sont des transhumanistes extropiennes extrémistes. Il y a aussi ça, voilà. Donc il y a les transhumanistes en général, les extropiennes qui sont les plus extrémistes, et dans les extropiens, il y a les singularitarisiens, bon, qui sont les plus extrémistes avec les bagues, avec les... Bon. Est-ce qu'ils travaillent avec Google? Je ne sais pas, mais peut-être, pourquoi pas.
Il me semble, en fait, en tout cas, dans le reportage, ça a l'air d'être assez clair et travaillé en lien avec... Enfin, je crois que c'est ça.
Ils disaient qu'ils étaient situés en face de chez Google, mais ils n'ont pas dit clairement qu'ils travaillaient avec Google.
Moi non plus, j'ai pas compris.
Ils ont du pognon.
Ils sont financés.
c'est l'idée. C'est suggéré dans le...
Ils ont du pognon.
C'était pas dit clairement, non.
Donc c'est ma parano qui a fait le...
D'accord.
Merde.
Non, mais dans le livre, on parle de ces trucs-là dans le sens de parler de la suprématie nerd, de la nerd supremacy. De la suprématie des geeks, c'est-à-dire de l'idée qu'effectivement une grosse partie du monde californien, turbo-capitaliste, dans l'idée des plus vite, plus fort, plus cool, voilà, vient des gens qui ont des graves problèmes sociaux. Mais c'est pas... Nous aussi, on a des graves problèmes, comme nous. On connaît bien, le truc, hein. Alors, comme ça, voilà, des gens qui ont des graves problèmes sociaux, qui, par contre, ont l'idée de pouvoir gérer les trucs pour les autres. Voilà. La nerve supremacy, c'est quelque chose qui existe vraiment. C'est Zuckerberg, Brin, Page... Steve Jobs, Bill Gates, Stallman, Linus Torvalds, c'est des suprématies. Julian Assange, c'est des adeptes de la nerd suprématie. Après, on peut être plus ou moins des gauches, des droites, des je ne sais pas quoi, mais c'est des gens qui pensent être mieux que les autres. Et qui le sont, des fois. Hein. Des fois, plus intelligents, je veux dire.
De droite ou de gauche, là, je vais... moi, si c'est possible de revenir sur l'idéologie sous-jacente, là. Parce que
Je suis pas sûr d'avoir. Ça m'intéresse de comprendre le concept d'anarcho-capitalisme. Parce que, comme je suis anarchiste, alors du coup, ça m'énerve. J'ai jamais bien compris ce que les anarchistes chez les libertariens, en fait. Qui, enfin, moi, si, alors j'ai pu me gourer, mais je pensais que l'anarchisme, c'était un projet d'égalité. Je vois pas ce qu'il y a de recherche d'égalité chez les libertariens. Et du coup, voilà.
Bah, en fait, chez les libertariens, le. Bon, après, ça, j'ai pas envie de faire un truc pompeux de philo-politique, quoi, mais l'idée de base, c'est ils se disent anarchistes surtout dans la critique de l'État. C'est-à-dire, c'est ça, le point important, ils disent, ah, mais le plus important, c'est la critique de l'État. Donc, du moment qu'on va critiquer l'État, on est anarchiste. Après, il y a derrière une espèce d'idéologie qui est liée au marché, quoi, et à penser que comment on va faire sans État pour se débrouiller, bah, pour eux. Le marché va réguler les relations et les transactions entre les personnes. Donc c'est ça, il y a ce truc-là. Et ce en quoi c'est lié à la technologie, à ce sur quoi on a réfléchi un petit peu, c'est que l'idée de transparence radicale qu'on trouve aussi bien chez Facebook que chez Wikileaks, c'est-à-dire qu'en livrant tout, en ayant une transparence, que les informations circulent librement tout le temps, qu'il n'y a absolument rien de caché, mais c'est comme ça que les marchés se régulent. C'est finalement, il y aurait une aide technologique à cette utopie d'une libre régulation des marchés. Après, c'est aussi très compliqué, si on va vraiment dans les catégories de la pensée libertarienne, puisque aux États-Unis, à partir de cette tradition-là, et d'une tradition historique qui est différente de la tradition libertaire qu'on connaît plus en Europe, il y a aussi des libertariens qui ont développé, à partir de ces idées-là, des espèces de pensées de gauche ou de pensées sociales. Ce qui fait qu'il y a un espèce d'imbroglio incroyable. Et effectivement, par exemple, les anarcho-capitalistes, ils aiment bien récupérer des symboles anarchistes. Quoi. Il y a des anarcho-capitalistes qui font des acerclés ou je sais pas quoi. Enfin, ça les amuse beaucoup. Quoi. Et je pense qu'il y a aussi une stratégie rhétorique qui est très importante pour eux à semer le trouble là-dedans. À se réapproprier des idées fortes.
C'est du sabotage. Non, mais c'est du sabotage. Franchement, c'est pas des aboutis, ça, ce qu'ils font. Si à un moment donné, ils prennent des mots qui les vident de leur sens ou qu'ils en font un sens contraire, c'est aussi pour nuire à cette idée-là. Moi, je vais pas prêcher ma paroisse, mais ça fait un moment que les gens, de plus en plus de gens se rendent compte que les principes libertaires, l'autogestion, un certain nombre de choses, c'est peut-être la seule réelle alternative au réel chaos capitaliste organisé. Donc si à un moment donné, ils dévoient même les pensées, les idées, c'est une manière de nuire ou d'invisibiliser ou de mettre le Bronx. Comment tu veux être anarchiste, capitaliste ou anarchiste de droite? Je vois vraiment pas de qui peut s'inspirer, de quel texte ils peuvent se référer. Il faut arrêter, c'est juste de la nuisance. Enfin, à mon avis.
Ouais, si tu veux, je suis. Moi, personnellement, je suis assez d'accord sur la conclusion. Et effectivement, il y a un côté récupération. Mais il y a aussi une histoire de ces pensées-là, si tu veux, qui explique comment ils font ça et pourquoi ils font ça. Si on veut aller vraiment loin, mais ce serait un peu chiant, effectivement, il y a des textes, ils se fondent sur des textes, notamment sur le cas de Stirner, si tu veux.
Ouais, on l'attendait, tout le monde.
Ouais, non, mais pas le Stirner d'Émile Armand ou je sais pas quoi. Ils prennent Stirner et après, ils le relisent et ils vont le lier avec d'autres penseurs. Et pour le coup, qui sont vraiment états-uniens et qui vont partir là-dedans. Ok, moi je suis d'accord sur la critique, c'est nuisible, c'est problématique. Mais si tu veux, c'est comme ça. Moi je pense d'un certain côté, ce qui est intéressant par contre dans ce que tu disais, c'est qu'il y a un moment, tu as affirmé des choses qu'eux n'affirmeront jamais. C'est-à-dire, par exemple, des questions qui sont liées à l'autogestion. Parce qu'eux, ils s'en foutent. Quand ils disent qu'ils sont anarchistes, c'est-à-dire qu'ils sont dans une critique de l'État. Et que derrière, il y a leur logique de marché. Et si tu parles vraiment d'autogestion, eux, ils s'en foutent de l'autogestion. Ils sont pas contre la hiérarchie, non, dans l'absolu. Tu vois, donc il y a plutôt des trucs, mais je suis d'accord, mais si tu veux, il y a des trucs comme l'autogestion qui sont affirmés, qui sont plus intéressants que, ou de dire, voilà, les processus de base, comment les anarchistes non capitalistes, pas ces gens-là, font pour s'organiser. Je pense qu'on dit beaucoup plus de choses dans nos manières de nous organiser, que en chamaillant sur des mots, quoi.
Je suis pas d'accord, excuse-moi. Exact. Il y a des communiqués de presse de partout pour expliquer que tu dis pas n'importe quoi, n'importe comment. Sinon, on peut plus parler, en fait. Enfin, moi, j'ai décidé qu'ici, ça s'appelle un bateau. Et après, c'est juste... Oui. Tu vois,
c'est une galère.
Parce que l'autogestion, c'est une chose. Mais t'as le rapport au pouvoir, rapport à la domination. Tu peux pas être anarchiste juste parce que t'es contre l'État. Tu peux pas réduire l'anarchie à ça. Et tu ne peux pas te réclamer anarchiste si tu es dans des processus de pouvoir, de pression et de domination. Du coup, juste, c'est des cambriolages, je ne sais pas.
Mais je crois.
Moi, je voulais savoir si c'était possible de revenir à la question de l'échelle, parce que je trouve qu'on ne l'a pas assez creusé et que, à mon avis, il y a des pistes pragmatiques, en fait. Là-dedans, enfin, en fait, de réfléchir en fait, à la question de l'échelle. Et par exemple, une réflexion que j'aimerais bien lancer comme ça en proposition, c'est est-ce qu'on pense que si on était à une échelle plus petite, ça réglerait vraiment la question de comment on se lie aux contenus qui sont dématérialisés. Et ce que je veux dire, c'est que, en fait, enfin, un exemple concret, ça peut être le fait que maintenant, on peut télécharger beaucoup de musique très rapidement, très facilement. Est-ce que ça veut dire, en fait, qu'on sera capable de l'apprécier parce qu'on la télécharge et qu'on l'a sur son ordinateur ou autrement dit, est-ce que c'est intéressant, en fait, d'avoir 10 000 heures de musique ou est-ce que c'est intéressant de plus réfléchir quel rapport on construit aux choses? Et la question, enfin pour moi c'est aussi la question de l'échelle, mais abordée en fait différemment. Voilà, je lance cette piste. Je ne sais pas si ça parle. Enfin.
Moi, je veux dire au même titre pour les humains, en fait, d'accumuler 10 000 amis et quelles conséquences ça peut avoir sur enfin, les utilisateurs de Facebook. Je ne sais pas s'il y a des études qui ont été faites là-dessus sur le consumérisme relationnel. Les conséquences sur les liens relationnels entre les gens, les utilisateurs de Facebook, le consumérisme relationnel, voilà, en gros, c'est pareil, c'est un peu l'histoire d'échelle que tu dis. Voilà. Je ne sais pas si vous en parlez dans votre livre.
Un peu.
Vous voulez en parler?
Pas beaucoup.
Un des aspects, mais c'est bien, ça lit plein d'interventions là, sur lequel je prends ces problèmes, c'est aussi comment est fait Facebook. Facebook, c'est moi. C'est comme ça qu'on nous présente, c'est mon compte, c'est moi, individu. Et en fait, on n'est pas du tout... pour revenir à cette question de les anarchistes, j'ai l'impression que quand la plupart des anarchistes imaginent une société idéale, on pourrait la baptiser communisme libertaire, vous voyez. Enfin, on peut se battre sur les mots longtemps, etc. Mais en fait.
Elle est partie là au second.
Une des grosses différences. Non, mais une des grosses différences pour moi, c'est une question d'approche du monde. Et l'approche de Facebook du monde, c'est je suis un individu. Et en fait, je vais me mettre en scène dans le marché des relations, quoi. Et je vais essayer de capitaliser. Ce que je fais dans la vie, quels événements je vais voir, c'est qui mes amis, etc. Et à un moment donné, si on veut aussi, pour moi, plein d'alternatives, enfin, je veux dire, je connais pas N-1, par exemple, mais c'est une des critiques que j'ai fait assez fort quand Rise Up, ils sont arrivés avec cet outil qui disait pour organiser le travail collectif qui s'appelle Crabgrass, et je sais qu'il est utilisé par Antigone, par exemple, et quand on arrive sur Crabgrass, eh ben, il y a écrit
moi,
mes trucs. Ouais. Et ils n'ont toujours pas changé, et ça me frustre, parce que, en fait, je pense que c'est une erreur stratégique profonde. C'est-à-dire que, il y a un moment donné, un besoin pour réinventer nos rapports à ces choses-là, à ces outils d'organisation, si on veut que ce soit les outils d'organisation, pour arrêter de se penser en tant qu'individu isolé du monde. Mais justement, être dans un truc où en fait ça va être des outils de communication, donc ça nous aide à nous organiser ensemble. Je sais pas si c'est clair. Mais.
En même temps, ça fonctionne moyen, quoi. Par exemple, Antigone, Crabgrass, il y en a qui tripent, qui s'utilisent beaucoup. Puis il y en a qui, c'est demain, ils ont la réunion, comment ça s'appelle, Conseil des activistes. D'Antigone où on se voit en vrai, on discute et tout. Je trouve qu'à un moment donné, ça peut pas remplacer le réel.
C'est pas la question.
Mais bon, alors excusez-moi, j'ai pas compris.
On va centrer les trucs sur les outils, mais plus sur la manière avec laquelle on s'organise. Il y a toute une partie dans ton bouquin sur les identités et la gestion des identités. Et sur le fait que tu défends le fait d'avoir plusieurs identités. Est-ce que tu voudrais en parler un peu
Le fait de plus d'identités, c'est exactement ce que disait... Tu te réponds ?
Moi, c'est Luna.
Luna. C'est-à-dire l'idée qu'il faut choisir des choses qui ne sont pas des autres. Et choisir des choses qui ne sont pas des autres, des fois, signifie ne pas dire « moi ». Ça signifie dire, des fois, « toi », »,« nous », »,« vous ».
Hippolyta.
C'est-à-dire changer un peu, changer les données. Changer les données, je vous dis un truc à propos de l'identité dans l'écriture. Moi, en particulier, j'écris une thèse sur la... qui est en italien, donc... heureusement, vous ne pourriez pas la lire, j'espère, mais bon. Sur l'écriture conviviale, sur la méthode, sur comment. Il y a des passages aussi sur nous, Hippolyta, et il y a la question de au creusement entre moi, toi et nous. On a codé un outil, pas moi personnellement, mais un outil pour écrire ensemble, un wiki. Simple. Puis on a choisi des couleurs. Moi c'est violet, lui c'est vert, et rouge, bleu, machin. Bon, on utilise chacun son couleur, donc on voit bien qui a fait quoi. Toi, moi, lui. Qu'est-ce qui se passe après? Des fois, moi je vais plus vite sur mes trucs. Et je ne regarde pas vraiment les trucs des autres. Alors il y a quelqu'un qui est dans son couleur, essaye de me dire, il faudrait creuser ces trucs-là que moi je connais pas, mais toi tu connais. Donc arrête avec tes délires philosophiques et concentre-toi sur les choses intéressantes. Sur l'écriture, on fait des formations sur l'écriture collaborative parce que c'est quelque chose de vraiment compliqué. Mais ça peut donner quelque chose. Ce qui peut donner, c'est qu'à un certain moment, il y a quelqu'un qui décide, bon, ça y est, on a passé notre temps, c'est bien. On a aussi un public. Donc, on vise à quelque chose qui est dehors nous. On n'est plus moi, toi, lui. On est nous. C'est pas trop bien défini, on n'est pas d'accord sur tout. Mais on fait un noir. Ça devient noir. C'est plus différencié, c'est nous. Et on est prêt pour l'envoyer à l'extérieur. Donc, la question du fait être concentré sur soi-même dans l'écriture, mais je veux dire, dans tout travail collaboratif, social, ne marche pas. Mais, c'est les points de départ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire des grands collectifs, pour notre expérience, on ne peut pas faire des grands collectifs si on n'a pas des grands individus. Grands, je veux dire, compétents, qui ont du temps à gaspiller dans des trucs communautaires, qui ont des compétences qu'ils veulent partager avec des autres, qui ont assez de patience pour ne pas dire « putain, mais t'es vraiment un con, tu comprends rien ». Ça fait des heures que je t'explique comment ça marche ce truc et tu t'en veux pas. Assez de patience pour donner quelque chose aux autres et pour apprendre quelque chose des autres. Et c'est au croisement entre moi, mes compétences, ce que je veux, etc. et toi, tes compétences, etc. qu'on peut construire quelque chose. Dans notre cas, c'est assez simple, c'est un texte. C'est, je veux dire... C'est assez facile faire une maison. Déjà, c'est plus compliqué. Il faut différentes compétences, il faut mettre ensemble des bureaucraties, parce qu'il y a aussi ça dans les questions aussi des serveurs autogérés. Il y a toujours la question, qu'est-ce qu'on fait des données des usagers, et la police, c'est où, et comment on gère. Donc, voilà, il y a l'extérieur. L'extérieur de la communauté qui est pas évident à gérer. Mais c'est ça que on cherche d'explorer avec la question de la taille. C'est-à-dire que c'est exactement là la question. Où est-ce que ça termine moi? Où est-ce que ça commence toi? Et surtout, où est-ce qu'on se sent nous? Et jusqu'à quel point, moi, je peux me permettre d'utiliser ta façon de faire et de jouer aussi avec... parce que dans l'écriture, c'est assez simple de jouer un peu avec. Mais si on les fait dans la vie normale, ça peut être plus compliqué que ça. Et c'est un essai, c'est toujours un work in progress, comme on dit. Un travail
en cours.
Question identité, c'est... Nous, on a des gros problèmes d'identité, hein. Mais gros. On ne sait déjà même pas ce qu'on est nous, donc... Et des fois, pour faire des relations avec... je ne dis pas le public, ça c'est plus simple des fois. Mais avec les journalistes, par exemple, vous n'imaginez pas, hein. Déjà, Hippolyta, la journaliste, elle pense qu'on est tous des femmes. Moi, je suis une femme. C'est bien, c'est très bien. Je réponds un peu avec une femme, je joue avec ça, très bien. Parce qu'elle pense que les femmes répondent d'une manière un peu différente. Déjà, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Mais elle a besoin d'un cadre de référence. Elle a besoin de penser que toi, tu es quelqu'un. Elle ne peut pas rester au texte. Elle peut pas. Elle a envie de savoir qu'est-ce que vous faites, mais dans vos temps libres, mais comment vous faites, mais elle veut pas vraiment savoir comment on construit les textes. Elle veut plutôt savoir t'es qui, quel est ton visage, machin. Donc la question de l'identité, pour revenir à la question de la prestation, parce que c'est ça, sur Facebook notamment, on est toujours en scène. On joue notre identité. On joue notre identité publique. Et c'est là, ça peut marcher si on a une identité publique. Ça peut marcher. Ça marche avec les stars, les starlettes, je ne sais pas quoi. Ça peut marcher si on a une identité publique en tant que groupe, par exemple. On a un groupe qui s'appelle, qui fait des trucs comme ça. On peut les publier. Et ça peut marcher très bien. Sauf que ça entraîne un peu une dynamique, comme on disait avant, des croissances, de rester dans l'outil qui nourrit l'outil. Parce que la question, c'est que si c'est gratuit et nous, on est la marchandise, quand on est là-dedans, on est chez eux et on travaille pour eux. Ça, c'est très important à savoir. On peut décider d'utiliser ça, et ça peut bien marcher, mais on doit bien savoir qu'on est en train de créer du profit, et créer du bénéfice, et ce bénéfice est fait par le biais de notre travail gratuit. Ça, c'est un peu... On est assez sûr de ça, voilà. Après, on peut l'utiliser bien, moyennement bien. Pour des choses moyennement intéressantes, ça peut marcher. Aussi pour communiquer les histoires de la Révolution, ça peut marcher. Je veux dire, c'est pas que ça marche pas, mais on voudrait que ça avoir des outils différents. Voilà. Bon. Voilà, je suis un peu perdu. Ah, non, une chose que je voulais dire, si vous êtes intéressé à rester en contact avec les réseaux, vous pouvez nous envoyer un mail. On ne vous demande pas de nous laisser un mail. Si vous êtes intéressé, vous nous envoyez un mail en disant, moi je suis intéressé pour ça. Parce que nous, on a un site statique. Il est là. On s'en fout de vous. Jusqu'à quand vous en foutez de nous? Alors, ça peut être intéressant. J'ai une proposition à vous faire pour traduire ces livres en farsi. Bon, très bien. Pourquoi pas? Mais juste pour dire. qu'on pense que la question des réseaux sociaux devrait être abordée pas seulement du côté des outils, parce qu'on peut bien faire des outils qui marchent très bien, mais qui ont les mêmes problèmes de taille et les mêmes problèmes de gestion des trucs merdiques qu'il faut faire avec la technologie. Parce que je ne sais pas combien de vous ont géré un serveur. Putain, c'est de la merde, quoi. Non, mais c'est chiant, quoi. Pour moi, je veux dire, des fois, c'est bien, mais la plupart des fois, c'est chiant. Et si c'est pas payé et c'est pas reconnu, ah voilà. Ça va pas.
C'est de l'auto-exploitation.
C'est de l'auto-exploitation.
Masochiste.
Masochiste en plus.
Ouais. Non, mais pas cool.
Mais pas cool. Ouais. Le masochisme cool, mais.
C'est là, non.
Et donc, si vous avez des propositions à avancer, nous, on fait des trucs de formation sur l'écriture collaborative. On peut imaginer des trucs. Maintenant, on est sur un projet d'écriture sur. On explique ça.
Lequel
sur la ritualité. Ouais. Donc, voilà. Vous voyez, Steve Jobs. Steve Jobs avec son truc de prêtre, comme ça. Vous prenez iPod, vous devenez créateur. Voilà, c'est un peu prêtre. Un peu. La pomme, bite de Apple. Ça a un peu le péché original. Il y a tout un côté de « on est mieux que vous ». Il y a un côté « guerre-religion ». Il y a un côté « les gourous ».« Docteur, j'ai un problème avec mon ordinateur. Qu'est-ce que j'ai fait ?»« T'as attrapé un virus. T'es mal porté. Il faut que tu changes ton comportement. Il faut se repentir. Il faut être mieux. Tu peux faire, mais il faut s'entraîner, quoi. » Il faut payer aussi, un bon antivirus, voilà. Souvent, il faut payer. C'est pas des gourous bon marché, hein.
Comme dans l'église.
C'est ça. Comme dans l'église, exact. Pour avoir la rémission des péchés, il faut payer. Donc, notre nouveau projet l'un des projets d'écriture, c'est sur ça. Si vous avez des suggestions, ça nous intéresse. Mais c'est vous qui envoyez, comme ça, on peut avoir un contact un peu plus, direct, voilà. Et quoi d'autre?
Moi j'ai une question de base, parce que je veux bien ne pas utiliser Google, et comme je suis enseignant, dire à mes chers élèves de ne pas utiliser Google, mais je leur dis d'utiliser quoi en fait quand ils...
Moi j'ai fait une petite référence. Je peux dire que DuckDuckGo, ça fonctionne. Je ne peux pas dire que ça fonctionne bien comme Google. Je peux dire que...
ça fonctionne bien quand tu es anglophone.
Ouais.
Et pas...
Si tu es anglophone, ça fonctionne mieux. Je peux dire que... normalement, il ne fait pas de la profilation, donc il ne tient pas la... Ça, c'est un truc intéressant. Si profilation, parce qu'on dit profilation... Mais qu'est-ce que c'est la profilation? Pour moi, la profilation expliquée comme ça, c'est de dire que si moi je recherche Hippolyta sur mon ordinateur, et toi tu le fais sur le tien, les résultats sont différents. C'est comme ça, ils sont différents. Pourquoi? Parce qu'on a une habitude, on a une histoire, et donc on a un profil quelque part, qui vient du criminal profiling, donc de l'idée qu'on est des criminels, en gros. Il faut savoir exactement où on était, quand c'était la scène d'un crime, pour placer la marchandise bien meilleure au bon endroit. Voilà. Donc profilation, c'est un peu ça. DuckDuckGo, c'est quelque chose qui dit de ne pas faire de la profilation, donc ça va. Après, c'est pas en réponse.
Non, mais ceci, c'est
aussi.
Vous n'êtes pas anglophone, ça c'est chiant quand même.
Scroogle, comment il s'appelle?
Scroogle, mais ça marche plus.
Si, ça a changé.
Ça a changé un peu.
Six S E E K S
K
qui est dans l'idée de faire un moteur de recherche à centraliser.
Ah oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs sur des moteurs de recherche décentralisés. Les problèmes sur les moteurs de recherche, c'est toujours... Je voulais dire une chose sur les moteurs de recherche parce que je pense que c'est important. J'ai fait là. C'est de dire que des fois, on utilise Google pour rechercher des trucs qui sont très 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 simples. Et la plupart des fois que ça marche, c'est parce que c'est très très simple. Si je cherche quelque chose qui n'est pas très simple, qui n'est pas évident, il faut creuser. Alors, plutôt que de dire on n'utilise pas Google, moi je voudrais penser dans la direction de dire on utilise, c'est mieux si on utilise des proxys, c'est-à-dire des filtres pour arriver, des anonymisateurs, des trucs pour ne pas être tellement profilé. Mais en gros, ce qui serait intéressant, c'est de reconnaître et avoir notre histoire à nous de recherche des façons qu'on peut la dire aux autres. Je fais un exemple. Si on me demande quelle est la référence pour ceci, peu importe, philosophie ou maçonnerie, c'est le même. Quelle est la référence pour toi hein? Ah, c'est un nom, je ne me rappelle pas bien, mais tu le cherches sur Google, tu vois, c'est le deuxième résultat. C'est ça le problème. C'est la délégation de la recherche. On a déjà, la plupart des fois, on utilise Google pour avoir les deuxièmes résultats, grand max. Mais la plupart des fois, c'est le premier. Alors que Google nous donne une tonne de résultats. Et donc, ce que serait intéressant, c'est de faire... Même avec Google, c'est qu'autrefois on appelait les bookmarks, comment on dit les marque-pages. Les favoris. Voilà. C'est-à-dire, j'ai mes favoris, t'as tes favoris, on peut échanger. Et quand on a des favoris, on n'a pas besoin de passer par Google, qui nous donne toujours la même réponse. Parce que la plupart des fois, on l'utilise comme ça. Et ce qui est très intéressant dans cette idée, pour moi, c'est de dire que tout le web 2.0 fonctionne comme ça. Ça, c'est une hyperbole. C'est très simple. C'est-à-dire que les premiers résultats de Google, on cherche Hippolyte, les premiers résultats, c'est là. Et les premiers résultats, on a 10 millions de résultats, ça vaut pas ou 1 sur 10 millions. C'est-à-dire que les 10 millions de résultats ne sont pas tous au même niveau. C'est ça l'idée trop idiote qu'on a des fois quand on utilise des trucs comme ça. Ah, c'est cool, il nous a donné 10 millions de résultats. Très bien. Mais lesquels tu vas utiliser? Les premiers. Et les premiers ne vaut pas 1 sur 10 millions. Les premiers, il vaut 50%. C'est-à-dire que les 50% des recherches tombent sur les premiers. Et c'est pour ça qu'il y a la logique de Google qui est « I feel lucky ». J'ai de la chance. Voilà. J'ai de la chance, premier résultat. C'est ça l'idée. Les premiers résultats, c'est le bon. Pourquoi? Parce que tu es profilé. Donc c'est toi. C'est toujours toi. Tu manges toi-même. Tu manges toi-même, parce que tu as déjà eu ces résultats-là. Les deuxièmes résultats, il ne vaut pas 1 sur 10 millions, mais il vaut 30%. Je fais un peu comme ça, mais ça c'est important. Ainsi de suite, les premiers 10 résultats sont les 90% de tous, 99%. Les premiers 10, la première page, tous les résultats qui sont après sont une occurrence qui continue. Et ça, qui continue, s'appelle long tail, la queue longue. Ce sont des occurrences qui arrivent une fois, qu'une fois. Et en fait, ce qui est très intéressant, c'est que le web 2.0 peut fonctionner seulement en faisant en sorte que cette queue longue puisse être reprise et jetée des fois, pas tout le temps, mais des fois, au premier résultat. C'est ce qu'on appelle anomaly detection. C'est-à-dire, toi, tu es très profilé. Toi, tu as des désirs, des besoins très spécialistes. Tu veux exactement ça. Mais vraiment, hein. Et tu as dit tout ce que tu voulais. Tu es vraiment bien, bien, bien profilé. C'est lequel ton résultat, j'ai de la chance. C'est celui-là qui est là. C'est seulement pour toi. Et quand tu recherches, comme tu es profilé, vraiment très très bien, ça tombe là. Ton résultat, c'est différent des miens. C'est pas comme ça. Ça fonctionne pas encore. Mais l'idée, c'est celle-ci. Prendre la différence, l'hétérogénéité, et donner les premiers résultats, sans effort, à toi, juste pour toi. Ça, c'est l'idée des connaissances de Google. Ce qu'on a essayé d'écrire dans le livre sur Google. C'est l'idée de prendre la différence, l'hétérogénéité, et faire en sorte que si tu nous as dit exactement ce que tu veux, d'une façon très claire, très nette, casier, casier, casier 1, casier 2, casier 3, voilà, on pourra te servir les résultats que tu veux. Et c'est exactement sur mesure pour toi. C'est-à-dire un produit personnalisé pour chaque consommateur évolué. En gros. Je ne sais pas si ça se comprend un peu. Ça se voit.
Je voudrais, désolé, souligner un truc là-dedans, c'est que pour moi, ça, c'est la fin de l'idée révolutionnaire. Au sens où j'ai l'impression que pour imaginer des perspectives de transformation sociale, il faut qu'on les pense, et il faut qu'on les pense ensemble. Et ces mécanismes-là qui font que chaque personne, elle est confrontée à une information différente et personnelle et individuelle, eh ben, ça veut dire la fin de la pensée collective. Bon, je caricature, hein, mais je veux dire, là, on est là ce soir, on est rassemblés, et en fait, quand on fait circuler un tract ou un texte, on est plusieurs à le lire, et ça fait qu'on est plusieurs à réfléchir ensemble dessus. On est d'accord, pas d'accord, on peut en débattre. Mais si chaque personne, elle est isolée dans son petit monde informationnel, bah, jamais on pourra, en fait, réfléchir ensemble à des choses. En tout cas, je le vois comme ça, quoi.
Est-ce que vous parliez dans la révolution le printemps arabe et soi-disant Facebook, tout ça, quoi.
C'est toi.
Ouais, un petit peu, non. Un petit peu.
Sur la révolution arabe.
Ouais, c'est vraiment compliqué, dans la mesure où, d'un certain côté, on va pas nier qu'il y a des gens qui se sont révoltés, et ils ont utilisé les outils qui étaient à leur portée. Donc ils ont utilisé ouais, Facebook, Twitter. Ça veut pas dire que parce qu'ils ont utilisé ça, c'était pas des vrais révolutionnaires ou le contraire. Donc la révolution, elle est venue de ça. Ce qui s'est passé, c'est aussi, bon, d'un point de vue technologique, ce que ça a démontré, c'est que des régimes qui étaient pas forcément bien au point sur ces questions de technologie pouvaient un peu se laisser déborder. Aujourd'hui, c'est quasiment fini, c'est-à-dire, je pense que... Bah, non, mais bien sûr, alors bien sûr que si, alors après on peut parler, non, alors on peut parler en termes statistiques, moi... Ah bah alors, après on peut parler en termes statistiques, mais alors moi, je suis absolument fatal, quoi, mauvais avec les chiffres. Donc j'arrive pas à les apprendre, mais on a un peu potassé ça pour un article qu'on a écrit là-dessus. Et en fait, quand tu te rends compte, quand tu regardes, par exemple, le pourcentage des gens qui étaient impliqués, quand tu regardes le pourcentage des populations dans le pays, et quand tu regardes à côté le nombre de personnes qui avaient un compte Twitter, quand tu regardes le pourcentage des inscrits sur Twitter qui utilisent leur compte, quand tu regardes tout ça, ce dont tu te rends compte, c'est qu'en fait, toute cette masse d'informations, elle venait de très peu de sources. Et donc, c'est un effet
si tu veux, l'idée de dire ces révolutions-là, elles ont été faites grâce à Twitter, à Facebook, etc., c'est une recréation journalistique, en particulier vue de l'Occident, où on a commenté le truc comme ça, mais vraiment d'un point de vue statistique, c'est assez anecdotique. Quand en plus on se rend compte, comme ça avait été montré, que beaucoup de personnes qui étaient genre qui tweetaient sur ces affaires-là, tweetaient en plus pas de leur pays, enfin du pays où se passaient les événements, mais étaient par exemple en Occident, si tu veux, et où effectivement ils avaient un lien, ils avaient la famille, etc. Mais cette activité-là, elle n'était pas liée aux révolutions. C'est-à-dire, c'est bien sûr que ça peut avoir un effet, je veux dire, on va pas le contester, mais cet effet-là, il est à minimiser par rapport aux événements qui ont réellement eu lieu. C'est plutôt rassurant.
Non, et puis il y a aussi une double question qui se pose maintenant, vraiment maintenant, qui est le fait de l'exposition de l'information et de comment on traite les informations. Nous, ça va sans dire, mais on le dit quand même, on n'est pas d'accord avec la censure. Voilà. Sauf que, on pense qu'il faudrait plus de règles, non moins de règles. L'idée des Wikileaks de l'information, c'est aucune règle. Toute l'information vous rendra libre, automatiquement. Je caricature, mais en gros c'est ça. Or, ce qui se passe maintenant, et je dis maintenant parce que hier, il y a eu un article d'une journaliste italienne assez connue qui a repris un passage du livre, c'est que à Gaza, il y a eu des morts, il y a eu ce qu'il y a eu, c'est pas important. Ce qui est important, c'est qu'il y avait une activiste italienne qui était là, qui a pris des photos, et l'a foutu sur son compte Facebook. Des milliers de contacts, c'est des enfants morts. Des photos. La réalité en direct te casse la figure. Or, la question là, c'est-à-dire, est-ce que l'information est en soi révolutionnaire? T'es conscient. Finalement, t'es conscient qu'il y a des morts quand il y a une guerre. Ah bon?
C'est nouveau.
C'est nouveau, ça.
Oui, grâce à la nouvelle technologie.
Grâce aux nouvelles technologies, on a découvert qu'il y a des viols, des morts, des blessés, des tortures, des tortionnaires. Les problèmes qu'on voit là-dedans, c'est pas de dire il faut censurer l'information, mais c'est de dire il faut se donner des règles, mais des règles véritables. Parce que mettre à côté, j'aime Justin Timberlake, et les enfants morts à Gaza, c'est un problème. Ça donne un problème, un véritable problème. Qu'est-ce qu'on va faire avec les photos des enfants morts à Gaza? Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire « j'aime ». Putain, c'est ça. C'est exactement ça sur Facebook. On va dire « j'aime ». Oui, t'as bien fait. Parce que c'est ça la révolution, dire aux gens ce qui se passe. Moi, je ne dis pas que c'est mal. Je dis que je vois un problème sur ça. Un véritable problème éthique, dans le sens d'esthétique, au niveau de la perception, esthétique dans le sens de la perception. Moi, vraiment, j'aime pas ça. Je trouve ça de la pornographie émotionnelle, de la pornographie au sens péjoratif du terme. Le pire du pire. On peut pas faire pire que ça. Et les problèmes, c'est de dire que cela devient quelque chose de révolutionnaire parce qu'on donne l'information aux gens, c'est toujours dire on donne. On prend jamais. On donne. Et puis les gens, il y a des choses qui tombent du ciel, l'information. C'est ça la question l'utilisation de ces trucs-là sur les révolutions. Le deuxième point de la question, c'est que maintenant, justement sur ces questions-là des Gaza en particulier, il y a Twitter qui est en train d'être utilisé par les hashtags des Hamas et les hashtags des Israéliens extrémistes en faisant les paris à qui a plus des retweets. Ce qui est un truc des fous, quoi. Mais des fous. C'est quoi ça? C'est révolutionnaire. Encore, c'est une caricature, mais pas tant que ça. C'est en train de se passer maintenant. Parce qu'on a vu que pendant les élections américaines, Twitter a été important. Et donc, on ne peut pas enlever à la Palestine la possibilité de dire ce qui se passe. Mais quelle possibilité? Qu'est-ce qui va se passer? On n'a pas de réponse, hein, mais c'est évident qu'il y a quelque chose qui ne marche pas du tout. C'est pas ça notre idée d'aller dans une direction d'une information meilleure, une information qui nous aide à construire quelque chose de différent. C'est une information qui nous écrase. C'est ça le problème. Être écrasé par des tonnes d'informations desquelles on ne sait pas quoi faire. On ne sait pas quoi faire. Après, je sais pas si je voulais pas être non, parce que ça vient de se passer.
Mais moi je trouve que c'est pas pour faire l'avocat de Twitter, Facebook et tout ça, mais je trouve qu'il faut pas nier le fait qu'en fait il y a toute une génération de militants et des gens qui utilisent ces outils comme Twitter pour passer de l'information, pour faire de la veille et du coup créer du lien et de la communauté autour d'un travail de veille et agir et se coordonner pour des actions. Je veux dire, il y a une époque où on avait un outil qui existe encore, qui s'appelait Indie Media, et qui permettait à la communauté militante de coordonner ses actions et de partager de l'information et de l'analyse. Et ben en fait, il y a certains lieux dans le monde, et peut-être pas à Grenoble ou en France, mais où il y a eu un déplacement et où cet outil, il a été abandonné comme plein d'autres ont été abandonnés, qui était un outil autonome, du coup, pour le coup, qui a été abandonné au profit de des choses qui sont, mine de rien, assez efficaces, quoi. Et puis qui permettent des choses, peut-être, que les outils qu'on avait créés dans la communauté ne permettaient pas, quoi. Et du coup, moi, je me dis, ben, ouais, il y a, je sais pas, peut-être qu'en Angleterre, ça a été un peu analysé, je sais pas, j'ai pas étudié le truc. Mais il y a eu un déplacement comme ça il y a 2-3 ans, 3-4 ans peut-être, à partir de 2009, où de plus en plus d'activistes sont mis à utiliser Twitter, quoi. Et du coup, les gens d'Indie Media Londres se sont dit, bon, peut-être qu'il faudrait rapatrier le fil Twitter sur Indie Media, il faudrait peut-être imaginer des manières de mixer en fait les pratiques et de les réintégrer dans nos pratiques militantes et dans nos outils, peut-être, je sais pas, bon, voilà. Et du coup, je trouve que c'est assez facile de dire, en fait, ça n'existe pas cette réalité-là et il faudrait pas la prendre en compte en fait.
Non, on dit pas qu'elle n'existe pas. On dit qu'il y a un discours qui voudrait la rendre plus importante qu'elle n'est. On dit pas qu'elle n'existe pas du tout. Et après c'est pareil dans les milieux militants. Enfin, moi pour parler de ce que je connais, par exemple si on prend le cas de Barcelone, on se rend compte qu'effectivement il y a eu une montée de ces outils-là qui ont été très utilisés pour les mobilisations. Et en fait, on s'est rendu compte que ça apportait de la répression. Et aujourd'hui, ce qui se passe, à une échelle locale comme là-bas, bah, c'est qu'il y a des nouveaux outils, les militants et militantes se rabattent sur d'autres outils qui ne sont plus ceux-là, parce que oui, ça a apporté des capacités de mobilisation qu'on n'avait pas avant, mais ça a aussi apporté une efficacité de répression qui n'existait pas avant aussi. Donc, c'est pour ça que, en fait, nous, ce qu'on dit, on ne nie pas que ça puisse avoir une efficacité, on dit simplement qu'il ne faut pas en faire le comment dire, on est contre cette idée d'une espèce de bonne nouvelle numérique, que ça nous apporterait plus de... Non, c'est un outil, donc, bien sûr, il y a des révolutionnaires qui s'en servent, mais il ne faut pas nous faire croire que les révolutions viennent de ces outils-là, ou que ces outils-là vont pas créer d'autres problèmes. C'est tout. On n'est pas là en train de juger ça. Notre discours, il n'est pas du tout celui-ci de dire ah t'as Facebook, ah mais c'est quelle horreur. Et... Non, je veux dire effectivement si les gens s'organisent, même si c'est sur Facebook, c'est déjà bien, c'est déjà un grand pas. Mais après, il faut pas vraiment l'idée qu'on critique, c'est ça, c'est d'en faire
la panacée des problèmes sociaux. Quoi.
Moi, ce que je voulais signifier, c'est qu'il faut repenser et penser, continuer à penser nos pratiques militantes en lien avec l'existence de ces outils et la critique qu'on peut en faire.
Ben, un truc qui a été abordé autrefois sur la question des pratiques militantes, c'était des... qui ne vient pas de nous, c'était une suggestion qui venait en fait des pratiques militantes en Allemagne, c'est de dire, on peut considérer ces trucs-là un peu comme des phénomènes d'addiction. C'est-à-dire qu'on a l'addiction à penser que si on a plus de tweets, on a plus de j'aime, on a plus de, c'est mieux. Et il faut que la prochaine, les prochains rassemblements, il faut plus de. S'il n'y en a pas plus, ça n'a pas marché. Donc, il y avait tout un discours que fait la comparaison entre des phénomènes d'addiction et des phénomènes d'addiction aux substances. Et des phénomènes d'addiction aux outils technologiques, dans le sens qu'on est poussé à les utiliser toujours plus. Et alors la réponse, une des réponses pourrait être de repenser cette mixité, de rapatrier les données de Twitter sur une des médias, pourquoi pas, bon, de les repenser dans une direction de réduction du dommage, ça se dit ? Plus ou moins. Réduction des risques. Réduction del danno.
C'est en italien. Du dommage.
Du dommage. Dans le sens de dire, bon, on sait que la drogue lourde, ça fait mal. Mais on aime. J'aime. Donc j'utilise.
Avec les deux points en plus.
J'aime, donc j'utilise. J'utilise pour mes pratiques militantes, mais je sais que c'est mal, dans le sens que ça me fait mal. Je suis là tout le temps comme ça, donc qu'est-ce que je fais? Je l'utilise avec la conscience que ça serait mieux de l'utiliser avec une baisse, encore une fois. Baisser la consommation. Je l'utilise avec, donc je me pose des règles, des limites, des règles. L'autonomie, c'est poser des règles, c'est donner des règles. Donc on pourrait dire, on a un groupe militant, machin, hein, on a bien notre compte Facebook, on fait de la com trop cool à tout le monde, parce que là, il y a tout le monde, mais on a à côté un site, et si on est coupé de Facebook, c'est qu'on perd un bras, tu vois. C'est dur, on n'a plus un bras. C'est un peu ça. Mais on ne perd pas tout notre corps. Parce que si on n'est que là, c'est-à-dire que dans un endroit géré par quelqu'un d'autre, avec des idées de marchandisation et machin, bah, si on est coupé, on est coupé. On n'a plus rien. Donc, on utilise des pratiques de rapatrier des données à nous, c'est possible aussi sur Facebook, de télécharger des données, de les utiliser pour monter des autres outils de communication qui nous permettent de faire des rapatriements des données entre plateformes différentes. Il faut des gens qui les fassent. C'est possible, on les fait, c'est possible. Mais c'est dans une idée de baisse de la consommation. C'est pas dans une idée d'avoir plus de j'aime sur notre rassemblement. C'est pour parler comme si c'était de la... mégaphone, non pas l'heure,
mégaphone.
Voilà. Je sais pas si ça peut être possible.
Moi, je voulais revenir sur l'efficacité prétendue des outils dont on parle là. Enfin, souvent, ce qui est critiqué dans les alternatives qui peuvent être proposées, c'est que c'est plus compliqué. Et moi, ce que j'ai l'impression, c'est que dans les Facebook et outils Google, c'est surtout enfin, l'effet masse et la communication qu'il y a autour, les moyens de communication qui donnent l'impression aux gens que c'est efficace. Enfin, pour avoir vite fait regardé comment se passaient des conversations Twitter, etc., enfin, il y a quand même des conventions, il y a un temps d'appropriation qui est vraiment pas intuitif, etc. Et enfin, tout outil, il y a un temps d'appropriation, seulement j'ai l'impression que c'est plus facile de faire l'effort quand c'est dans le move, quoi. Et poster sur Indie Media, utiliser des trucs pour bosser à plusieurs de façon décentralisée, c'est des choses qui demandent aussi un temps d'appropriation. Et comme c'est pas dans le move, on te dit tout de suite, ah oui, mais ça c'est dur.
C'est ça, il y a des effets de masse qui sont évidents. Ou pourquoi, pour prendre un exemple stupide, quoi, pourquoi aujourd'hui il y a plus en plus de gens qui vont utiliser Google Chrome. Ils vont utiliser. Pourquoi ça change? Alors il y a une espèce de couche rhétorique, on va dire ah oui mais c'est plus rapide, je sais pas quoi, bon en fait c'est même pas vraiment vrai. Mais comme il y a un effet de masse, les gens vont se réhabituer à un nouvel outil, et là ça va passer tout seul, alors qu'un autre outil va paraître beaucoup plus difficile. Ou comme on en parlait, la question pourquoi les gens ont arrêté d'utiliser MSN pour prendre des outils en plus, pareil, hein, qui nous posent problème. Pourquoi ils ont arrêté d'utiliser MSN et se sont mis à utiliser Skype, qui fait globalement la même chose. Et parce qu'il y a un effet. Alors qu'il fallait apprendre, même si c'est rapide, il fallait apprendre à utiliser les outils. Je sais pas. C'est bon. Si tu donnes cet outil-là à une grand-mère qui a jamais utilisé un ordinateur, ou à un grand-père, ou à ce que tu veux, ou à quelqu'un qui n'a jamais utilisé un ordinateur de toute façon, et que tu lui fasses utiliser Skype, MSN, XMPP, ou ce que tu veux, c'est la même chose, ça demande un temps d'apprentissage, mais effectivement, il y a des effets de masse, il y a des effets qui nous donnent l'impression que c'est plus utile. Et puis il y a aussi beaucoup de fric, tu parlais de communication, qui est mis dans le design des interfaces pour que ça nous semble joli, et que tout de suite, on a envie d'utiliser ce truc-là.
Ce que je déteste le plus dans les faits de masse de l'utilisateur, c'est l'utilisation qu'a fait Apple. Eux, ils sont des génies sur ça. C'est-à-dire que tu as des trucs qui sont compliqués à utiliser, que tout le monde te dit « Bah putain, mais c'est trop facile !» C'est trop facile. Moi, j'utilisais la console depuis 20 ans. C'est pas si facile que ça de savoir qu'il faut prendre des choses et les jeter dans la poubelle. C'est où cette poubelle? Pour moi, c'est pas évident. Je veux dire qu'il y a des choses qui deviennent évidentes parce qu'il y a un effet de masse qui est donné du fait qu'on pense à peu près comme les autres. Et donc, ce qui passe dans la communication, ce qui est complètement différent des milieux de hackers d'autrefois, c'est l'idée que on ne part pas des choses qu'on fait parce qu'on fait tous la même chose, en fait. C'est-à-dire qu'on ne dit pas, autrefois, si on devait dire, pour aller à changer les paramétrages de ton logiciel, donc il faut savoir quel système d'exploitation, quelle langue, quelle boîte, machin. C'est-à-dire, il y a beaucoup, beaucoup de possibilités dans les mêmes outils. Or, si on utilise, tout le monde utilise Google Chrome, qui est égal pour tout le monde, ces problèmes-là des communications des bases, c'est-à-dire de se comprendre sur l'outil, il n'y a plus, parce qu'eux, ils ont pensé à le résoudre, et ils le font très bien. C'est ça aussi. Ils le font mieux que nous. C'est sûr que c'est plus facile de poster sur Facebook si on a un machin Android avec les trucs j'aime et tu l'envoies comme ça, parce que ils sont mieux dans les interfaces que nous, c'est sûr. Sauf que le fait d'avoir enlevé la couche, on s'est mis d'accord sur comment on fait les choses, même sur les outils, fait semblant qu'il soit plus facile. En fait, c'est plus facile parce que tout le monde utilise la même chose. Et parce que tout le monde donne pour déjà su, déjà vu que tu utilises ça. Donc tu as un site, tu arrives sur un site, ça marche pas. Pourquoi? Sur Chrome, ça marche pas ce site-là. Il faut changer les sites. C'est mon problème. Ça, c'est mon problème vraiment. Parce que j'ai des sites qui ne marchent pas sur Chrome. Bon, bref, ça c'était autre chose. Et voilà. Donc.
question. C'est quoi les technologies conviviales, les critères? Est-ce qu'il y a un rapport avec Ivan Illich?
C'est une copie.
Est-ce que c'est quelque chose de bien défini? Comment on les repère? Comment on les conçoit?
Comment on les repère? Ça serait intéressant. Oui, c'est quelque chose qui a à faire avec Ivan Illich. C'est repris tel quel. Et ça a à faire avec l'idée de dire il y a des seuils d'utilisation, des tailles. Donc, si on a un problème, je l'ai redit comme ça, si on a un problème qu'on pense résoudre avec une technologie, on a les problèmes d'Ivan Illich, l'un entre autres, c'était la circulation. Donc on décide d'utiliser des voitures pour se déplacer. Voilà. Il y a une taille, un seuil, à laquelle la voiture devient inutile, parce qu'on bouge pas plus rapide qu'avec nos jambes. Et il y a un autre seuil dans lequel cette même technologie devient une nuisance. Et c'est les deux seuils d'utilisation des tailles d'une technologie. Et c'est justement une question des tailles au départ. Donc l'une des façons de repérer une technologie conviviale, c'est de dire au-delà d'une certaine taille, ça ne peut pas être convivial. Pourquoi? Parce que ça entraîne, ce qu'on disait auparavant, une série de rapports hiérarchiques qui ne sont pas des rapports de hiérarchie basés sur le fait qu'on s'est fait confiance et donc on dit, bon, tu fais ça, et puis on verra. C'est-à-dire une confiance qui donne la possibilité de faire des hiérarchies qui bougent, qui peuvent bouger, mais donne une confiance totale dans le fait que la machine fonctionne elle-même. Et basta. Mais le fait que la machine fonctionne elle-même est possible seulement si on a une taille industrielle qui est justement la taille qu'on ne peut pas gérer nous-mêmes. Donc l'une des façons de les repérer, c'est un peu de la théorie, mais pas que, c'est de dire s'il y a une taille trop grande, ça ne peut pas être convivial. Une autre chose, ça pourrait être de dire que si on ne peut pas expliquer d'une façon assez simple ça signifie dans un temps limité, dans un espace limité, on ne peut pas expliquer comment ça fonctionne quelque chose, ce n'est pas une technologie conviviale. Je fais un exemple. L'exemple classique du vélo. On peut faire un atelier de vélo et apprendre dans un temps assez limité, avec un investissement d'énergie, des compétences assez limitées, comment on sait servir d'un vélo. Après, les construire, les souder, c'est un peu différent, mais c'est faisable quand même. C'est faisable. C'est compliqué, mais c'est faisable. Construire une centrale nucléaire comme ça, on fait un atelier, on va comment, c'est pas possible.
Atelier centrale nucléaire.
Ouais, atelier centrale nucléaire, c'est pas possible. Atelier OGM, c'est pas possible. Atelier low-tech.
Nanotech.
Nanotech, c'est pas possible. C'est pas possible. Non, mais ça fonctionne bien. Donc c'est une question des possibilités des communications. C'est sûr que pour communiquer, il faut de l'intérêt, il faut de quelqu'un qui est disposé à partager son savoir, mais aussi quelqu'un qui est disposé à les prendre. Parce que si tu as un savoir, après il y a un problème. Comment tu l'utilises? Je veux dire, c'est pas évident. Mais ça, c'est une deuxième chose qui est pour la question repérage. Et sinon, je sais pas.
Ouais, il y a aussi un truc de niveau de technologie par rapport à ce qu'on parlait tout à l'heure. C'est-à-dire les technologies qui sont issues de l'informatique. Ben voilà, pour faire un iPad, il faut de l'exploitation. humaine, de l'exploitation matérielle, il faut de la destruction écologique, etc. Enfin, on n'a pas trouvé de façon do it yourself de faire des composants pour mettre dans des ordinateurs, quoi. Ça, c'est simple. Donc, il y a un moment où il y a un niveau technologique qui fait qu'on ne peut pas se réapproprier ces technologies-là. Contrairement à un vélo, effectivement, de l'exemple que tu prenais, effectivement, le construire, c'est difficile, mais ce n'est pas hors de portée à une plus petite échelle ou entre nous. Par contre, fabriquer un iPad, enfin, moi, je veux bien qu'on me montre, hein, mais
c'est pas faisable.
C'est pas faisable.
C'est qu'en fait, revient à dire que cette technologie conviviale dans l'informatique, c'est un peu en boutade.
C'est un peu problème.
Non, c'est un peu, ça pose des vrais problèmes dans le sens que, effectivement, on est au-delà de la taille et au-delà de la complexité pour pouvoir la gérer. Il y a longtemps. Mais de toute façon, on est involucré là-dedans, je veux dire. On veut pas engager.
Impliquer.
Voilà. Et donc, on aime bien quand même. Un truc comme ça. Il y a aussi de ça. C'est contradictoire.
Comme l'addiction de Facebook, quoi.
Et dans le sens que. Une autre chose, c'est le désir qui n'est pas la pulsion. C'est-à-dire que les technologies industrielles ont la tendance à satisfaire des pulsions d'une façon répétée, tellement répétée qu'en fait il n'y a pas de satisfaction. Alors qu'une technologie conviviale a la tendance à essayer de satisfaire des désirs. Et un désir n'est pas satisfait tout de suite, immédiatement, et toujours de la même manière, mais comme elle est fruit d'une construction personnelle, collective, il faut du temps pour les construire, et normalement, il faut aussi du temps pour en profiter. Donc, les fast-food n'est pas une technologie conviviale, parce que c'est toujours le même, et ça fonctionne comme ça, et ça fonctionne à grande taille. Faire un banquet et profiter bien des produits qu'on a soignés, machin, c'est convivial, et ça se dit convivial pour ça, parce qu'on prend son temps. C'est la différence entre satisfaire des désirs et des besoins et satisfaire des pulsions, ce qui est un peu les discours psychologiques qu'il y a à marge, mais à la lisière, sur toutes ces genres de technologies. Après, je ne sais pas, il faut les construire. Vraiment. On voudrait bien. Donc, si quelqu'un a des idées, voilà. On veut bien.
Mais ça veut dire que faudrait, c'est Illich qui disait peut-être rester au niveau du vélo pour parler des transports. Donc, mais à un moment donné, bon, il y a les voitures, les avions, est-ce qu'on peut redescendre, revenir au vélo? Et ça veut dire que pour les technologies informatiques, à un moment donné, on dit, on arrête et on revit, qu'on redescend, comme s'il y avait une espèce de vouloir, d'un côté, une tendance à vouloir toujours plus et plus vite, et une espèce d'une croyance de qu'on pourra faire toujours plus. Les robots, peut-être, quoi, ceux qui seront après nous, peut-être, mais où on arrive à redescendre vers un truc plus.
Non.
Ouais, plus.
L'un des choses, ça pourrait être quelque chose que tous ceux qui ont eu affaire avec la console ont bien présent. C'est l'idée qu'on peut faire des choses. Et des fois, on décide de ne pas les faire.
Quand la console, parce que la console dans le sens de la ligne de commande.
Ah, la ligne des commandes. C'est-à-dire que passer d'un côté de dire « Ah, je voudrais avoir cette technologie, mais je ne peux pas l'avoir. » Passer de l'autre côté et dire « Bon, je pourrais avoir ça, ça et ça, ou bien je pourrais faire ça, ça et ça. Je pourrais exploiter le nucléaire, mais je ne veux pas. » Donc, il y a un choix. Et être satisfait et joyeux dans les choix qui n'est pas être
s'est cassé les couilles avec la décroissance heureuse, qui n'est pas heureuse. La décroissance n'est pas heureuse, pas du tout. C'est de la souffrance, des fois. La décroissance, il y a un côté de assumer les faits que c'est trop. Et assumer cela signifie vraiment baisser, ne pas quelque chose de joyeux. Les transformer en quelque chose de joyeux implique changer les désirs qu'il y a à la base. Bon, là on jette dans le monde, je sais pas. Si quelqu'un a des idées, prière d'avancer. Bon, je sais pas si on pourrait continuer à